Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Au bout du foot. Avec nous ce soir du bon monde autour de la table, nous allons parler des qualifications de la Coupe du Monde, zone Afrique et zone Europe bien évidemment. On va parler de football et encore du football, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes bien installés. Avec nous ce soir, Lucas, comment ça va Lucas ?
Ça va et toi ?
Ça va, la super, forme. Ça va. Bonne semaine de football ?
Très bien.
Après, moins de football.
Voilà, c'est ça, quand c'est les trêves internationales, c'est toujours particulier, mais il y a quand même des beaux matchs, il y a quand même des choses qui arrivent pour la Coupe du Monde, etc. Il y a le coup près qui tombe, notamment pour les équipes africaines, on va en parler. Donc ça reste intéressant.
Merci Lucas. Jason, comment ça va ?
Ah, ça va bien et toi Eladj ?
Ça fait un petit moment Jason ?
Ouais.
Hein, bon. T'es porté disparu maintenant ?
Non, on est là.
Tu joues au foot toi aussi, du coup
C'est ça, c'est compliqué. Entre le foot, la radio, on essaie de s'adapter. Mais on est présent aujourd'hui.
Merci en tout cas pour notre plus grand plaisir. Chez Kenza ?
Oui, Eladj, comment tu vas ?
Ça va et toi ?
Bien, bien, la forme.
T'as beaucoup de choses à dire, hein ? Tu parlais beaucoup en off. Hein ?
Ouais, un peu. En fait, on connaît jamais tout, donc un peu.
Un peu. Maxence, comment ça va, Maxence ?
Ah, moi, ça va pas. Les trêves internationales, ça me saoule. Ça y est, j'étais dans ma Ligue des Champions, dans ma Ligue 1, et là, on m'enlève tout ça. Je suis un peu frustré, mais ça revient vite.
Franchement, en tant que supporter marseillais, en tout cas, c'est rare de t'entendre dire ça quand même.
Non, non.
Les trêves, normalement, tu souffres un peu
moins. L'année dernière, ça allait bien, deuxième de Ligue 1, voilà. Mais cette année, c'est vrai qu'on a été coupé en plein élan.
Ça arrive pas souvent, mais voilà. En tout cas, on espère que vous allez bien reprendre aussi. Avec nous, un invité spécial, Omar. Comment ça va, Omar ?
Ouais, ça va très bien, et toi ?
Ça va, super. Omar, qui va nous faire un point sur un peu toute l'Afrique. T'es d'origine malienne, je suppose, Omar ?
Oui, c'est ça.
Du coup, bon. Aujourd'hui, tu viens nous donner un peu ton sentiment, ta frustration un peu de cette équipe malienne aussi, ouais. Éliminée des qualifications de la Coupe du Monde, encore une fois.
Bon, encore une fois, hein, toujours les derniers de la classe, malheureusement. Ça n'a pas changé. Sinon, au passage, on va parler de l'actualité africaine. Moi, ça me fait plaisir. En tout cas, je te remercie pour cette invitation. Et je suis prêt à en parler et à débattre aussi.
Merci à toi, Omar, en tout cas, pour ta présence. Nous allons commencer zone Europe, hein, qualification Coupe du Monde. Les Bleus sont imposés seulement, ils ont fait le boulot, 3-0 en tout cas, contre l'Azerbaïdjan, grâce notamment à un super but du capitaine Kylian Mbappé, qui est sorti malheureusement sur blessure, et un retour un peu gagnant qui va faire plaisir peut-être à Maxence, Florentin...
Florent Thauvin,
qui est revenu en sélection, qui a été appelé suite à une blessure et qui a tout simplement marqué, qui a fait une belle entrée. Il a joué 8 minutes et il a inscrit un but déjà.
Oui, il met un super but. L'histoire, elle est belle avec son retour après 6 ans. Après, moi, comme j'ai dit la semaine dernière, je ne l'aurais pas sélectionné personnellement, mais voilà, il me donne tort, en tout cas sur le premier match, parce qu'il saisit sa chance, chose que d'autres jeunes n'ont pas forcément réussi à faire, comme Akliouj, comme Nkunku, qui n'ont pas été... aussi déterminant que lui sur leur entrée. Après, à lui de confirmer ce soir en étant titulaire, notamment contre l'Islande.
Exactement, parce que ce soir, la France joue. On ne va pas faire une émission spéciale en direct, je pense, mais on va quand même suivre de très près cette rencontre. Hein. France-Islande ce soir. Il y a encore quelques matchs qualification Coupe du Monde. Hein. Il y a l'Allemagne, notamment, qui joueront contre l'Irlande du Nord. Il y a la Belgique, qui joueront contre les Pays de Galles. Et il y a la Suisse, qui a fait 3-3 pour l'instant, et qui vont jouer la Slovénie, la Suède, qui ont un peu du mal, qui vont jouer contre le Kosovo. En tout cas, c'est les matchs en Coupe d'Europe pour ce soir. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces qualifications Coupe du Monde en zone Europe, Lucas ?
Tu parles pour la France ?
Pour la France, déjà, dans un premier temps, oui, on va commencer avec la France. Déjà, le constat après le match face à l'Azerbaïdjan ?
Sans bavure, je dirais. Ça n'a pas été flamboyant, mais au moins, c'est sérieux. On voit que l'équipe gagne ses matchs, que même quand Deschamps, il y a beaucoup d'absents, parce que là, c'est le cas, il a quand même, il a dû faire tourner, il a dû se creuser la tête pour voir qui est sélectionné. Je pense que Thauvin, c'est plus une opportunité, par exemple, qu'un joueur qui est amené à rester, même si l'histoire est belle. Et donc, je pense que même si, voilà, c'est pas flamboyant, il y a encore des manques sur le jeu, on voit quand même une petite mutation. On espère que le 4-2-3-1 qu'on voit avec souvent Olise en 10, c'est pas un feu de paille pour faire taire, entre guillemets, les critiques, et qui va s'appuyer sur ce travail qu'il fait depuis quelques mois pour créer un vrai jeu, une vraie identité à son équipe. Et après, sinon, je retiens quand même des grosses nations en difficulté, notamment la Belgique, tu en as un petit peu parlé, la Belgique qui est en danger avec Rudi Garcia qui nous sort un petit peu encore des déclarations lunaires où il a l'impression que ça va le faire parce qu'ils ont un match de retard, alors qu'un match en retard, c'est jamais gagné. Donc moi, je retiens, ouais... peut-être la Belgique en danger, parce qu'on parle beaucoup de leur belle attaque avec des jeunes comme Doku qui marchent bien, mais on a l'impression qu'au milieu et derrière, il y a un renouvellement qui ne se fait pas. Donc ouais, moi je trouve que la Belgique, elle a du mal. Je crois qu'Italie a du mal aussi. Ça fait des grosses nations qui pourraient manquer la Coupe du Monde, et ouais, c'est ce que je retiens pour le moment.
On va parler de la Belgique. Hein. La Belgique, en tout cas, c'est accepted goal 3,20, 25 tirs. Pour seulement 5 tirs cadrés, hein. Et tout ça comme loupé contre la Macédoine du Nord qui sont premiers du groupe et que tu sais que fallait les battre pour passer devant.
C'est ça, c'est pour ça que je dis que je suis d'autant plus étonné par les déclarations de Rudi Garcia après match, qui dit qu'ils auraient préféré gagner mais qu'un match nul ça reste un bon résultat, etc., parce qu'ils ont un match en retard. Enfin, moi je trouve qu'il ne saisit pas l'urgence de la situation, et on retrouve un peu le Rudi Garcia un peu suffisant, qui avait été très critiqué en France à Marseille et à Lyon, où tu as l'impression qu'il ne prend pas mesure de la situation. Vu l'équipe qu'il a, franchement, il doit mieux faire. Même si, je le dis, il y a peut-être qu'une génération un peu plus creuse que celle d'avant, au milieu et en défense. Il a toujours De Bruyne, il a toujours des grands joueurs, il a des buteurs aussi. Enfin, je veux dire, pour moi, au moins devant, avec Doku, avec Openda, avec Joan Bakayoko, etc., normalement, il doit faire son travail. Et en fait, on a l'impression qu'il sait pas, il a pas trouvé la formule, en tout cas, encore.
En tout cas, c'est difficile. Zone Europe, encore, on va parler de la France. La France qui ont tout simplement gagné 3-0 aujourd'hui contre l'Islande. Pour toi, c'est quoi le constat déjà du groupe? Comment tu vois l'atmosphère déjà du groupe? Florent Thauvin a appelé, Tolisso qui a été laissé sur la paille un peu. Tolisso qu'on pensait que lui avait un peu plus de chance quand même que Florent Thauvin. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
Après, on voit que depuis un moment, Tolisso, Deschamps, il n'a pas envie de faire appel à lui alors qu'il le mérite déjà depuis la fin de l'année dernière. Mais bon, après, ça, c'est ses choix. Je pense que son milieu de terrain, il a déjà quadrillé. Malgré les absences, il compte que sur Koné, Rabiot,
Tchouaméni.
Il a rappelé Camavinga, malgré qu'il ait eu pas beaucoup de minutes avec le Real de Madrid. Donc, c'est quand même un signal qui est envoyé à Tolisso. Après, sur les offensifs, il a dû prendre du nouveau. Donc là, ce soir, on va voir Mateta et Florian Thauvin qui a fait une bonne entrée sur les 10 dernières minutes l'autre fois. Surtout qu'on a vu aussi un Ekitike qui était assez débrouillard, qui s'est quand même bien démené pour une première sélection, parce qu'ils sont tombés face à un bloc de l'Azerbaïdjan quand même, qui a bien tenu l'équipe de France, et qui a fini par craquer aussi par la fatigue et par un exploit de Kylian Mbappé. Mais moi, la nation sur laquelle que je suis vraiment déçu, c'est la Suède. La Suède, je m'attendais avec un duo Gyökeres-Isaac, qui était de retour ces derniers temps. Et franchement, ça fait pchit. Alors qu'il y a un moment, la Suède, c'était une équipe redoutable. Et là, je ne reconnais pas du tout cette nation.
Ah, ils ont un point en trois matchs, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est très compliqué.
Après, la Suède, là, avec parce qu'on sait ce qui roulait, ce qui marchait vraiment, c'était l'attaque. Hein. Et là, on voit que Gyökeres, avec Arsenal, c'est coup-ci, coup-ça. C'est des débuts assez... voilà. Et Isaac aussi, pareil. Où c'est compliqué, c'est encore plus compliqué, même Isaac, j'ai envie de te dire,
surtout
parce qu'il n'a pas eu vraiment de préparation.
Ouais,
il a eu ses problèmes un peu avec, avec Newcastle, mental, où il doit être un peu fatigué. Du coup, il arrive dans cette équipe. Est-ce que c'est pas dur aussi après de.
Mais de là, perdre contre le Kosovo, quand même, c'est que c'est compliqué. Même si le Kosovo, ça reste.
Poussif, même.
Poussif, c'est une nation qui a quand même quelques joueurs, mais qui ont des routards comme Muriqi qui joue en Espagne. Mais tu ne peux pas te permettre de perdre contre ce type d'équipe. Ça veut dire que si déjà contre le Kosovo c'est compliqué, tu ne peux pas aller en Coupe du Monde.
Est-ce que la Suède est une meilleure équipe que ces nations? Est-ce que la Suède, on peut classer la Suède? Est-ce qu'on peut classer la Suède
dans le top 10 européen?
Non, jamais. Même pas, mais devant le Kosovo quand même.
Oui, quand même.
Oui, devant le Kosovo. Mais
est-ce
que ça reste
pas... C'est ça qui est compliqué.
Mais est-ce que ça reste pas un peu dans la même, la même zone? Même si c'est, ils sont peut-être au-dessus, les autres en dessous, mais est-ce que ça reste
pas... Ils ont quand même deux attaquants qui, à eux deux, valent 200 millions d'euros. Donc j'estime qu'ils
sont quand même... Ça, c'est que des chiffres.
Ouais, enfin, l'équipe elle a un passé, ils ont fait des quarts de finale de Coupe du Monde,
mais
etc.
Mais pourtant même la National League là, qu'ils ont fait juste avant, ils ont fait un bon parcours. Ils ont été très bons dans les poules, même Gyökeres il marchait sur l'eau.
Et surtout avec cette nouvelle formule de Coupe du Monde avec encore plus de pays,
c'est ça,
pour
c'est
moi t'as pas le droit. C'est comme
droit.
L'Italie, on en parlera peut-être après, mais l'Italie qui a plus son destin en main pour se qualifier parce que la Norvège est déjà première et même en les battant au retour en Norvège, ils passeraient pas, ils seraient obligés de passer par les barrages. On connaît le passif des Italiens avec les barrages qui est rarement positif. Mais là, c'est déjà que sur une Coupe du Monde à 32, en tant qu'Européen, c'était compliqué de ne pas se qualifier. Alors sur une Coupe du Monde à 48, c'est quasiment une faute professionnelle.
Omar,
oui.
T'avais des choses à dire. Ça se voit que tu ruminais un peu, peut-être.
Non, après, je suis dans la lignée de ce que les interlocuteurs ont dit. C'est que, bon, on a quand même deux attaquants de classe mondiale, Gyökeres et Isaac. Bon, qui font des débuts de saison un petit peu mitigés, mais pour moi c'est pas quand même une excuse. Normalement la Suède, au vu de son effectif comparé au Kosovo, normalement devrait être largement en tête.
En tout cas ce soir, Suède-Kosovo, la Suède du coup aura à cœur de se remettre d'aplomb et de gagner ce match à domicile. Peut-être que ça va le faire, le match vient tout juste de commencer en tout cas. Toujours 0-0. Moi, je voulais revenir un peu sur l'équipe de France. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu cette déception en l'envoyant jouer contre l'Azerbaïdjan? Est-ce que tu n'as pas cette petite déception où tu te dis l'Azerbaïdjan, c'est là où, au goal à virage, tu dois exploser un peu l'équipe, gagner beaucoup. En plus, tu joues à domicile. Est-ce que tu ne dois pas leur mettre le minimum syndical? C'est minimum 5-0, chez Kenza.
Oui, on peut le dire, en fait. On peut le dire, en fait. Vu, en fait, du point de vue des supporters, mais par contre, nous, on ne peut pas le dire. Parce que... ces dernières années, en fait, les équipes ont beaucoup évolué. Et quand tu regardes la physionomie du match, tu as l'impression que vraiment, ils sont venus, ils ont mis le bus, ils s'étaient bien préparés, le match a été bien préparé. Parce qu'en fait, c'était un bloc très, très bas. Donc, du coup, c'était un peu difficile pour nos attaquants qui avaient besoin de l'espace et tout ça. Et du coup, les 15 premières minutes, on peinait un peu à trouver notre bon équilibre. Après, en fait, avec une action salvatrice de Kylian Mbappé, dans son grand jeu, qui a endossé le constat et tout ça, avec des mocassins bien cirés. Donc, il nous sort vraiment, en fait, il nous sort vraiment de quoi montrer que oui, qu'il est là, c'est lui le patron. Voilà. Donc, il a endossé vraiment son rôle de leader et il a montré vraiment que c'est quelqu'un vraiment sur lequel l'équipe de France vraiment peut compter plutôt pour le futur. Mais vu la physionomie du match, je crois que oui, en fait, ils nous ont créé pas mal de problèmes dans l'entrejeu, mais au final, on arrive à la gagner. Mais comme normalement, ces équipes-là, par le passé, vraiment, on les mettait même des scores fleuves, disons même des scores larges. Mais vu que le football a évolué ces dernières années, et on a senti vraiment qu'ils n'étaient pas venus vraiment, ils avaient un bon plan en contre-attaque, ils savaient que oui, par moment, en fait, notre défense est peinée et tout ça, donc ils pouvaient vraiment nous surprendre, mais ça n'a pas été le cas. Mais je suis entièrement satisfait, en fait, de la prestation de l'équipe de France. Quand tu regardes vraiment les autres matchs, tu imagines que la Suède perd contre le Kosovo. En fait, il y a eu des grandes équipes. Tu imagines que l'Italie, qui est 4 fois champion du monde, qui est là vraiment, qui est deuxième, en fait, qui est dauphin. Ça prouve vraiment que le football a beaucoup évolué. Et ça, c'est des choses aussi qu'on doit prendre en compte dans nos critiques.
Et puis, la France n'avait pas besoin de faire beaucoup plus. Tu parlais de goal average, qui est certes quelque chose d'important quand il y a des groupes resserrés. Mais là, la France est première avec 9 points et deuxième, le deuxième à 4 points. Donc, il n'y aura pas de goal average. Globalement, il te reste 3 matchs. Tu dois en gagner un et tu es sûr d'aller à la Coupe du Monde.
Oui, la victoire, c'est
donc, je pense, ou même la victoire au retour contre l'Azerbaïdjan. Enfin,
mais
voilà,
la victoire,
ça
c'est soi même, ça, c'est le sort.
Exactement, c'est terminé.
Non, ça donc, dépend après des autres.
Oui, mais bon. Ouais. Il faudrait en prendre 5 contre l'Azerbaïdjan et 4 contre l'Ukraine et en que l'autre côté.
Sait-on jamais, le football a changé.
Pas dans ce sens-là.
Donc, après, si je peux me permettre de mettre un bémol, néanmoins, en fait, ça reflète aussi les difficultés de l'équipe à Deschamps face à des blocs bas, moi je trouve. Et il faudra vraiment faire attention au Mondial 2026. Là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. On va probablement passer et se qualifier. Mais j'ai remarqué que cette équipe, à chaque fois qu'on joue contre des blocs bas, et même contre l'Islande au match aller, on a eu vraiment des difficultés. Et je pense que c'est lié aussi à la spécificité de nos attaquants. Ils ont besoin d'espace et de profondeur pour marquer. Et vraiment, contre les blocs bas, j'ai remarqué, c'est très compliqué.
C'est vrai.
C'est pour ça que, excusez-moi, mais c'est pour ça que juste avant, on parlait de l'attaque. Quand moi, Mateta a été sélectionné, je me suis dit, c'est un joueur qui ne jouera pas Mateta. Mais dans ces matchs-là, bloc bas, t'as besoin des joueurs de tête qui puissent mettre de la tête pesée sur la défense. Du coup, des joueurs comme Mateta pourraient servir à cette équipe pour contrer un peu les équipes bloc bas.
Oui, exactement. Après, encore une fois aussi, ça dépend aussi de l'animation qu'il y a autour. Et en fait, avec un joueur clé comme Kylian Mbappé qui aime bien dézoner, est-ce que voilà, ça ne va pas isoler notre attaquant qui sera seul en pointe ? C'est ça aussi que je me pose vraiment la question, en fait. Et de ce fait, en fait, moi, je pense que est-ce que Deschamps ne doit pas adapter son système face à des blocs bas, le changer parce que voilà, son 4-2-3-1 il est pas mal. On a vu qu'il y a certains joueurs qui ont émergé comme Olise et aussi Manu Koné. Mais je me dis, est-ce que contre les blocs bas, est-ce que c'est vraiment la solution ? Est-ce qu'on ne devrait pas passer avec deux attaquants à la limite ?
Après, c'est la question que je me pose. Je pense que Deschamps nous a appris dans les dernières années à ne pas comparer les équipes qui met tout au long de l'année sur des petites trêves internationales de 2 semaines et les équipes qui l'emmènent en compétition. On voit que la compétition avec Deschamps, c'est totalement autre chose. Le système, il peut changer au mois de juin sur un premier match de poule comme en 2018 où il démarre avec une idée contre l'Australie, avec deux latéraux, avec deux mecs sur les côtés. Et au final, il change tout après ce match-là. Il change ses latéraux.
C'était pour dire l'équipe que la presse veut, les supporters, elle marche pas. Laisse-moi être mon équipe et laisse-moi travailler.
Mais en tout cas, toute l'année, t'avais jamais vu Pavard latéral droit, t'avais jamais vu Lucas Hernandez latéral gauche, t'avais jamais vu Matuidi en haut à gauche dans ton 4-3-3.
Et Dembélé plus Mbappé titulaire.
Exactement, etc. T'avais jamais vu ça. Et au final, il te le met sur un deuxième match de poule et c'est l'équipe qui va t'emmener au bout. Donc je pense qu'il n'y a pas trop d'enseignements à tirer, mis à part les petits enseignements individuels sur un tel a été bon, un tel a raté sa chance, etc. Par exemple, le match de ce soir, je pense, pour un Mateta ou pour un Thauvin, c'est le match où ils peuvent espérer une place de réserviste en juillet. Mais t'as un tel Mateta, même s'il met doublé ce soir, t'as tellement de monde devant lui. T'as Mbappé, t'as Thuram, t'as Dembélé qui vont revenir. T'as encore Kolo Muani, t'as encore
Ekitike. Qui est dans la course, en fait.
Le mec, il est 6e, 7e dans la hiérarchie. Donc même s'il est très fort, il passera peut-être 5e. Mais il ira jamais dans les 2-3 qui vont être sélectionnés à la Coupe du Monde. Et je suis d'accord avec toi, ce que tu dis sur les blocs bas. Mais l'avantage, c'est qu'en Coupe du Monde, Deschamps, il vise les matchs contre les plus grosses équipes où c'est lui qui va pouvoir être en bloc bas. Quand tu vas jouer l'Espagne, quand tu vas jouer le Portugal, l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil, il va se mettre en bloc bas et c'est nous qui allons les contrer. Donc,
il y a un truc à ajouter, en fait, quand tu as dit là, en fait, face à des équipes comme l'Espagne, le Portugal, en fait, je crois que, en fait, Deschamps, dans sa lecture de jeu, face à ces équipes-là, hormis la Coupe du Monde 2018 et la 2022 qui nous réussit, mais depuis quelques années, ça, c'est un petit, en fait, une petite analyse, plutôt un petit constat que j'ai fait. J'ai vu que face à ces équipes, même quand on joue en bloc bas, on avait d'énormes difficultés. Quand on regarde en fait, la demi-finale de l'Euro face à l'Espagne, en fait...
Ouais, mais contre l'Espagne, qui n'a pas de difficultés aujourd'hui ?
La France
a été en difficulté pendant toute la compétition.
En fait, ça je le dis, en fait. Mais je crois que c'est des trucs qu'on doit revoir, parce qu'en fait, qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, l'équipe de France, elle a toujours été créative, en fait. Cette équipe de France qu'on a tous...
Ah non,
98, 2018, en fait, les deux Coupes du Monde que tu gagnes, t'es tout seul créatif.
En fait, oui, mais ça, c'est les Coupes du Monde qu'on parle. Mais quand on parle de celle de 2006... On avait du beau jeu, même si ça commençait moins.
Non, 2006, la réécriture, elle est un petit peu facile.
Ouais, au fait, c'est moins.
Quand tu
revois
la
au
finale,
début.
Quand tu revois la demi, il y a tout sauf du beau jeu. Hein. C'est un bloc bas
parce
et...
Parce que tout le monde regarde Zidane au Brésil.
Oui, mais en fait...
Tout le monde a le Brésil, mais...
Mais déjà, en fait, quand tu regardes le match contre le Brésil, c'est un match référence, tu t'imagines, en fait.
Mais c'est le match référence de Zidane qui vole. Mais sinon, le reste du temps, t'es deux lignes de quatre qui sont bien travailleuses.
T'as Vieira Makelele, surtout, qui fait le ménage pour que Zidane soit le plus libre possible.
Mais devant, c'est pas un festival offensif, tu vois. Ça joue pas de fou au football, c'est on donne le ballon à Zidane et on espère qu'il fasse de la magie.
Mais c'est là que ce sera intéressant aussi dans les prochains mois. Est-ce que Deschamps va continuer avec 4 offensifs ? Est-ce que Olise en 10 ou Doué s'est amené à rester ? Parce que là, en fait, t'as des clés pour jouer contre les blocs bas. Je veux dire, Doué, que ce soit Dembélé, Barcola, toute l'année en Ligue 1, ils jouent contre des blocs bas. Donc ils savent comment faire ça au mieux avec Luis Enrique et sont entraînés. Donc à voir la tactique de Deschamps. Mais c'est sûr que je m'attends pas à du jeu flamboyant. Après, comme je disais, à voir. Est-ce que la tactique qui travaille depuis quelques semaines, depuis quelques mois maintenant, est-ce qu'il va aller au bout de cette idée ou est-ce qu'il va arriver en mode Coupe du Monde ? Allez, je reprends ce que je sais faire.
Je mets Rabiot
défensif.
Gauche.
Mais... Ouais, c'est ça, ouais.
Mais après,
ouais,
toutes les nations galèrent contre des blocs bas. Si tu regardes bien, regarde le Portugal aussi contre...
Qui gagne 1-0 à
la République d'Irlande. Ils ont galéré aussi. Les seuls qui ont la facilité, voilà, c'est l'Espagne.
Mais c'est la meilleure équipe du monde. Mais sinon, à part ça,
C'est les seuls qui arrivent à... Parce que regarde, quand l'Espagne, ils ont joué contre la Géorgie, je suis sûr que tu mets la France en face, ils galèrent à marquer.
Bien sûr.
Ils galèrent à se créer des situations comme contre l'Azerbaïdjan. Alors que l'Espagne, tu vois, contre la Géorgie, en 10 minutes, ils ont déjà créé 3 occasions.
Mais c'est parce qu'en fait, il y a une fluidité dans le jeu, en fait. Tu vois,
c'est pas le même football.
On va pas se comparer à l'Espagne. De toute façon, dans 9 mois, on sera toujours pas l'Espagne.
Ouais, non, en fait, on demande pas d'être l'Espagne, mais on demande à se remettre en question. On demande aussi à s'améliorer, en fait. Parce que 8-7, on l'a gagné en 2018.
Ça fait 14 ans que Deschamps, il est là. Il lui reste 6 mois. On va pas s'améliorer en 6 mois. Ça va être la même recette, la même méthode. Et on verra bien ce que ça donne.
C'est la dernière.
Mais c'est la dernière. C'est terminé, de toute façon. Ça fait 12 ans qu'il est là. Il a déjà tout fait. À mon avis, il va pas tout révolutionner maintenant. Et il faut aussi prendre en compte que les joueurs, ils sont en pleine saison. On leur demande d'aller jouer contre l'Azerbaïdjan. Il y a 3-0, c'est terminé. S'il fallait absolument mettre 5-6-7, à mon avis, ça aurait pu être possible avec des mecs encore plus impliqués, qui avaient encore plus faim. Mais on a vu Olise, il joue avec les mains dans le short. Il a envie juste d'une chose, c'est de retrouver avec des champions avec le Bayern dans deux semaines. Les mecs ont aussi peur de se blesser. Il y a plein de choses qui rentrent en compte.
Parce que la saison, elle est longue. En fait, il faut protéger aussi, comme on dit, il faut protéger des cadres et tout. Je comprends pourquoi il a essayé de ménager un peu pour voir, en fait, de nouveaux profils. Mais je crois que Deschamps, je sais pas si, en fait, il a l'esprit critique de lui-même, en fait. Essayer de voir vraiment là où il a penché pour essayer de s'améliorer, en fait, de façon continue. Ça serait bien, en fait, parce que c'est quelqu'un, en fait, oui. Voilà, quoi qu'on dise, on peut pas vraiment le cracher là-dessus, parce que oui, c'est, en fait, quand on dit, c'est 2 finales de Coupe du Monde, une gagnée, en fait, demi-finale d'Euro, en fait, son bilan, il est entièrement satisfaisant, et donc on peut rien lui reprocher, mais en fait, ses approches de match, c'est ce qu'on fait, parce que nous, on est là aussi pour dire, en fait, parce qu'on a l'œil critique, ce que vraiment l'entraîneur, il peut pas avoir entre le match et tout ça, même si après, il y a toute une armada, en fait, tout un arsenal autour de lui, des coéquipiers, mais nous, on a l'œil critique aussi, en fait, d'en parler, en fait, des choses,
ouais,
en fait,
mais j'ai pas envie d'être critique contre l'Azerbaïdjan. Sur un match,
non, pas les Azerbaïdjans,
mais c'est un fait
qui est là, en fait, c'est récurrent depuis pas mal d'années, on en parle, oui, et même si on la gagne et tout,
mais parce que Deschamps s'en fout d'être beau, il a pas envie. Jouer comme Luis Enrique, ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut gagner un final 1-0 contre l'Espagne, ça sera son match parfait.
De toute façon, il y a très peu de nations qui jouent très bien au football.
Il n'y a que l'Espagne en Europe, il n'y a que l'Espagne,
très peu de nations, il n'y a que l'Espagne, et allez, on peut dire, parce qu'on le voit de loin, l'Argentine. Oui. Et les équipes comme ça.
Et encore,
non, mais il y a encore, oui, voilà.
Non, mais là, vraiment, il y a le Portugal qui joue bien aussi au football.
Non, le Portugal,
même
non.
Le Portugal, c'est
le Portugal, on les a joués à l'Euro, c'était bien.
Ouais, c'est compliqué.
Ils ont mis leur bloc bas, ça a été 0-0 moisi, on les sort au tir au but.
Même le Portugal, c'est
Portugal, dans les gros matchs, c'est encore pire que la France.
Voilà, c'est trompeur, parce qu'à chaque fois, on voit les grosses nations contre des petites. Et quand tu regardes bien, contre la France ou certaines nations, c'est vraiment des blocs bas. Et quand il y a d'autres nations, tu les vois, ils vont jouer contre exactement les mêmes pays, ils vont leur mettre 5-0, mais parce que le bloc est plus découvert. Et nous, ça c'est trompeur.
Comme la Belgique, ça leur arrivait de mettre des scores,
voilà,
Lukaku, ils en
parce
mettaient 1, 2, 3, 4.
Les équipes ont espoir de
exactement.
Battre la Belgique.
Ils se disent, derrière, il y a un petit peu de faiblesse, voilà. On va pouvoir prendre en profondeur. Là, derrière, tu vois Upamecano, Saliba, Koundé,
Maignan,
tu te dis, c'est fini, c'est terminé.
Ouais, c'est
et excusez-moi de vous interrompre, la Belgique qui ont concédé l'ouverture du score face au Pays de Galles. Hein, qui
donc là, ils sont même pas en barrage, je crois.
Ouais, là, c'est compliqué pour les Belges. En tout cas, 8e minute. En tout cas, oui,
Pays de Galles qui a pris combien contre l'Angleterre la semaine dernière?
Pour l'instant, ils sont 3e.
Ouais, donc 3e, t'es même pas en barrage.
Ouais, 3-0.
Ouais, Pays de Galles, ils ont pris 3-0
contre en 15 minutes, ils les ont pris. Ouais.
Oui,
une équipe un peu remaniée d'Angleterre.
Exactement.
Et c'était... Voilà. Bon, et l'Allemagne qui ont concédé l'ouverture du score, le but est à vérifier aussi.
S'il n'y a ni Belgique ni Italie à la Coupe du Monde, Infantino il va encore s'énerver, on va avoir une Coupe du Monde 96 la prochaine, et puis au moins il aura tout le monde jusqu'aux îles Féroé, il sera content.
Il n'aura jamais tout le monde, puisque Donald Trump dit qu'il ne veut pas laisser rentrer les Iraniens, donc il n'y aura jamais tout le monde.
Non, mais sur la zone Europe. Mais...
blague à part.
Est-ce que vous pensez, pour clôturer un peu sujet équipe de France, hein, en tout cas pour l'instant, avant de revenir plus tard, est-ce que tu penses, Omar, que Florent Thauvin a ses chances de participer à la Coupe du Monde 2026?
Je vais être cash au vu du nombre de blessés s'ils reviennent, je ne pense pas. Mais bon, après, une saison, c'est très long, surtout la saison qu'on a avec la Ligue des Champions, nouveau format, et le championnat de France. Donc, moi, j'y crois pas trop, mais peut-être sur un malentendu, pourquoi pas.
Vous êtes tous unanimes là-dessus?
Oui.
Moi, je vais encore plus loin. J'espère pas qu'il y sera. Ça serait mauvais signe quand même.
Bah, ça voudrait dire qu'on a 7 ou 8 blessés devant quand même.
Oh, ça veut dire qu'il y a des chutes de niveau spectaculaire. Je sais pas à quel moment il peut passer devant un Doué ou devant même un Akliouche, tu vois. Ça me
mais
paraît pas possible.
Après Akliouche, je sais pas. Si tu vois, mais Akliouche, pour moi, il est pas dans la liste non plus.
Ouais, moi non plus, ça veut dire que si Akliouche n'y est pas, mais que Thauvin y est, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part.
Après, ça dépend, parce que si t'as tes 20 joueurs, tes 20 titulaires remplaçants et qu'il t'en manque 2 ou 3, je vois pas l'intérêt d'amener Akliouche dans ce groupe-là s'il jouera jamais.
S'il jouera pas. Ouais.
Si après, on part du principe qu'il joue pas,
exactement.
Tu vas prendre un mec qui
c'est
est là pour le groupe.
Qu'autre chose.
Exactement. Mais qui avait le rôle d'Adi Drami en gros en 2018, tu vois. Un mec si qui sait qu'il vient, qu'il joue pas, et voilà.
Ouais, je sais pas si vous avez entendu, mais ce que disent les commentateurs, c'est que pour Tolisso, c'est ça aussi. Deschamps a peur que Tolisso soit trop fort et qu'il déséquilibre son milieu. Et comme il a déjà ses têtes, en fait, il préfère prendre des joueurs entre guillemets bouche-trou qui vont accompagner le collectif.
Ouais, de exactement. Base. Comme Khéphren Thuram, tu le prends, tu sais qu'à la prochaine liste, voilà. Si tu le sautes, c'est pas grave.
Exactement.
Alors que Tolisso, s'il vient, qu'il est indiscutable au milieu, qu'il est trop fort, bah, la prochaine fois, tu peux pas le virer.
Ça redistribue les cadres plutôt.
Et puis c'est aussi un mec de caractère. Qui a 30 ans, 31 ouais. ans.
Qui... Donc il préfère pas du tout lui donner sa chance, comme
exactement.
Ça il n'y a pas de débat.
Bah, comme exactement. Avec Lacazette à l'époque aussi, c'était ouais, un peu le même problème.
Oui, après, c'est vrai que Deschamps, il a toujours eu cette particularité, il n'aime pas avoir des fortes têtes dans son groupe.
En remplaçant en tout cas.
En remplaçant parce que pour lui, il va se dire ah, c'est trop difficile à gérer.
Tout l'équilibre
il va
du groupe et tout ça.
Mais ça se comprend. Ouais. En 98, c'était pareil. Hein. Il y a Cantona qui n'a pas été pris parce qu'il allait être sur le banc.
Il y a Anelka aussi. Il y a Anelka
c'est
aussi.
Depuis cette expérience-là que Deschamps
exactement,
a fonctionné comme ça. Parce que lui, l'a vécu.
Exactement.
Il a vécu dans un groupe où il y avait des gens qui le prenaient mal. Et du coup, en tant que sélectionneur, il ne veut pas récidiver.
Mais ça s'entend aussi. Parce que si tu n'as que des têtes d'affiche avec des mecs qui jouent 5 minutes par match, est-ce que la gestion de groupe au quotidien sur une compétition d'un mois, ça peut être compliqué? On voit que les équipes qui gagnent, l'Argentine en 2022, ils n'ont pas que des stars sur le banc. Ils ont des mecs qui acceptent leur rôle, qui sont en porteur d'eau et qui coupent les oranges pour Messi, et puis c'est très bien
mais
comme
là,
ça.
Regarde, heureusement que Coman, il est sorti du feu là, parce qu'imagine, il pète à la Coupe du Monde en faisant les déclarations
exactement.
Qu'il a fait.
C'est, il fait ça en match de poule, c'est la merde pendant 3 semaines. Hein.
Bah, il a dit comme quoi, si c'était pour être remplaçant, ça sert à rien de le sélectionner.
Il vaut mieux pas l'appeler.
Qu'il préfère laisser sa place à un jeune.
Exactement.
Donc en gros... heureusement que la déclaration elle vient maintenant, donc maintenant ça a Deschamps de faire son choix.
Il le prendra
parce que
pas.
De base Coman pour lui il est remplaçant, donc maintenant c'est à lui de faire son choix, mais je pense que c'est ses dernières sélections.
C'est culotté,
il,
en plus,
il le prendra plus vu Deschamps tel qu'on le connaît.
C'est,
bah,
c'est,
lui, c'est quelqu'un en fait,
très
ouais. C'est quelqu'un vraiment qui le prendra plus, et c'est quelqu'un vraiment qui rigole pas si c'était un point et tout ça en
et
fait.
C'est aussi pour ça que des mecs comme Kolo Muani, ils sont hyper bien vus par Deschamps, parce que Kolo Muani, que tu lui donnes 45 minutes, 1 minute, 3 minutes, il va se donner à fond, il va fermer sa gueule toute la semaine, il va se donner aux entraînements,
il encourage les coéquipiers en plus.
Il va encourager, il va faire le pressing sur les défenseurs à l'entraînement, histoire de travailler les sorties de balle, les relances. Et c'est le joueur parfait en vrai, le mec tu le mets sur le banc, il est là, tu le mets titulaire, il est là, il joue le match des coiffeurs en poule contre je sais pas qui, l'Arménie, il est là.
Ouais, il va accepter.
C'est,
ouais.
Voilà, c'est...
Merci Maxence. On va se faire une petite virgule avant de revenir pour parler un peu de l'Allemagne qui sont imposés facilement 4-0 et le Portugal de Cristiano Ronaldo qui ont peiné à s'imposer mais qui ont réussi à s'imposer. On y revient de suite. Cristiano Ronaldo qui a loupé un penalty, du moins Keller qui a arrêté son penalty, et franchement, heureusement, Ruben Neves est venu à la rescousse un peu à la dernière seconde et a mis ce petit but-là. Hein. Dans ce genre de match, qu'est-ce que vous dites? Parce que même quand il fait un changement et il fait rentrer Gonzalo Ramos, bien évidemment, tout supporter du football qui regarde... les matchs de foot, c'est inconcevable que Martinez sorte Cristiano Ronaldo et le remplace par Gonzalo Ramos à la 85e minute, en sachant qu'il a loupé un penalty et que c'est Cristiano Ronaldo, il peut en mettre un sur une tête, un corner, un truc, un bout de pied, et le sortir. Est-ce que tu peux vraiment gérer
Moi, le décret pour lequel Cristiano doit être titulaire indiscutable et joue 90 minutes en 2025-26 dans une équipe qui vise la gagne en Coupe du Monde, je comprends pas. Donc... après, c'est personnel, mais le fait que Cristiano il soit jugé comme quand il avait 29-30 ans, qu'il était à son top, et qu'il ne sorte pas, un peu comme Mbappé en équipe de France aujourd'hui, sauf que dans l'état de Cristiano aujourd'hui, pour moi,
à son âge.
C'est très normal qu'il ne soit pas, comme avant, titulaire indiscutable, à jamais sortir, à être au-dessus des lois.
On ne parle pas de titulaire indiscutable ou pas. Ce n'est pas ça, c'est dans la situation où il était. Dans la situation, c'est ça que je parle, c'est dans la situation où il vient de louper un péno.
Ouais, mais là, il ne faut pas penser à son cas personnel, il faut penser à la nation.
Oui.
Là, il a fait rentrer Ramos, qui est très bon dans les dernières minutes au PSG.
Lui qui apporte vraiment, en fait, ce que Cristiano n'a pas pu apporter.
Oui, mais Gonzalo Ramos, c'est un super sub.
Justement, il a envie de prendre d'être sub.
Ouais, c'est un sub, parce que depuis qu'on lui donne sa chance...
après, c'est pour ça qu'il est rentré.
C'est pour ça que tu le rentres à 5 minutes de la fin, c'est pour son job s'il est super sub.
C'est... à la place de Bruno Fernandes. Et ce qui, ça va te faire. En fait, à ce moment-là, il parle plus, je pense. Moi, ce qu'il y a dans sa tête, hein, je pense. Moi, j'évoque ce côté-là. Mais je me dis, moi, je fais le même choix que lui, dans le sens où j'ai besoin d'un jeu de tête, faut qu'on centre. Et on voit, hein, le but, c'est quelqu'un qui met la tête. Ouais, et là, tu sais que tu vas envoyer tous les ballons dans le centre. Et un mec comme Cristiano, c'est bête de se passer de lui-même à la 90e minute, il peut sauter et te mettre une tête. Et Bruno Fernandes, lui, n'ira pas dans les 5 mètres pour essayer de te mettre une tête.
Et là, tu as les yeux de l'amour. T'as les yeux de l'amour.
Non,
et là,
pour de vrai.
Ça, moi, ça nuit. T'as non, les yeux
non,
de l'amour.
Non, ça n'a rien à voir.
Cristiano, il a 45 piges. Il va pas sauter au-dessus de Upamecano et de Saliba pour mettre une tête.
Non, même à cet âge, c'est un athlète professionnel, Cristiano. On voit vraiment, en fait, on voit qu'à 40 ans, tu t'imagines qu'à 40 ans, il y a eu ses compères d'avant, en fait, qui n'ont pas pu avoir la même carrière que Cristiano. À 40 ans, si t'es encore sélectionnable d'une équipe comme le Portugal, son passé parle beaucoup plus pour lui que son présent.
Bien sûr.
Bah oui, ça, on peut pas.
Mais il peut jouer jusqu'à 60 ans, il sera encore sélectionné parce qu'il y a aucun coach qui va dire je prends pas Ronaldo dans ma sélection.
Ça, on peut pas
y
remédier. Ça déjà, on peut pas y remédier. Mais en fait, ce qu'elle a dit, en fait, il y a pas, en fait, comme on dit, en fait, tout n'est pas totalement faux dans ce qu'il dit, en fait, Elhadj, parce que ce qu'il dit vraiment, on montre que oui, Cristiano, en fait, vu déjà que voilà, c'est quelqu'un, en fait, qui a de l'expérience et tout, et en fait, c'est une action, il peut te sortir, en fait, même s'il a été mauvais 85 minutes.
Bah donc, dans ce cas-là, tu le fais jouer 90 minutes tous les matchs.
Non, laisse-moi terminer. C'est normal.
Ça dépend du match après.
En fait, là, vraiment,
exactement.
Mais là, en fait, déjà que l'entraîneur a vu déjà, peut-être que oui, vu qu'il n'était pas bien, il a loupé le péno. Peut-être que voilà, bon, il ne faudrait pas qu'il s'envole tout ça. Donc, du coup, on le remplace. Peut-être qu'il a vu que sans doute, il connaît mieux le joueur que nous. Nous, on a juste notre œil critique. On est juste là vraiment pour en parler des choses et tout.
Mais dans ce cas-là, tu commentes rien. Dis pas des trucs comme ça. Franchement, bien sûr que l'entraîneur, il fait un choix et que nous, on va le commenter.
Normal qu'on va le.
Mais ça lui donne raison.
Ils connaissent tous mieux les joueurs que nous. C'est pas pour autant qu'on va dire qu'ils se sont plantés.
Non, je t'explique. Il connaît mieux Cristiano, en fait. On parle de Cristiano.
Il connaît mieux Gonzalo Ramos aussi.
Cristiano, c'est un cas particulier. Gonzalo Ramos, quand on le veut pas, ça a toujours été un sub. Un remplaçant quand il arrive, ça a toujours été un joueur de rotation.
Il a été titulaire en 8e de finale en 2022, il met triplé contre la Suisse.
Oui, bien sûr, mais sur combien de matchs?
Mais c'est en 8e.
Il a été titulaire sur combien de matchs? Avant de parler, les stats sont là. Voilà, donc du coup, ça prouve déjà que, déjà, ils ont déjà une animation vraiment qu'on le veut ou pas, qui tourne autour de Cristiano Ronaldo. Parce que même.
C'est un immense problème pour le
Portugal. Est-ce que ça les dessert pas, justement? C'est pas ça qui les dessert.
Après, d'un côté, Cristiano, il apporte toujours sa pierre à l'édifice. Mais si on remarque bien, quand Cristiano avait été absent au niveau du Portugal, j'avais l'impression que c'était une équipe
plus fluide.
Ouais.
Je suis d'accord.
Mais il y a l'aura aussi, en fait, ça pèse. Hein, Cristiano,
il gagnera la Coupe du Monde avec l'aura, alors.
Mais des fois, ça écrase les autres. Des fois, ils sont trop inhibés, justement.
La dernière fois, ça m'a fait rire parce que j'avais vu, il y avait un coup franc et tu savais que c'était pas pour lui de base. Et en fait, il arrache des mains à Bruno Fernandes. Et lui, dans sa tête, parce que d'habitude, Bruno Fernandes, ça doit être le mec aussi qui commence à tout prendre. Et là, Cristiano, il prend le coup franc, alors que c'est son 1000e qui tire sur le mur. Il tire encore sur le mur. Et juste après le coup franc d'après, Bruno Fernandes revient pour taper le coup franc, mais c'est Cristiano encore qui le prend pour taper sur le mur. Et j'ai dit dans ma tête, sur ça, il n'a pas évolué.
Non, il veut tout faire.
Il veut tout faire alors qu'il ne le maîtrise plus, cette partie-là. Bah, c'est vrai, je pense que le dernier coup franc qu'il a dû mettre, c'était quand?
Non, sa deuxième saison à Madrid, peut-être.
Non, arrêtez, les gars. Dernier
c'est pour dire une éternité.
Non, il en a mis
régulièrement.
La saison dernière.
En Arabie Saoudite.
C'est le gardien, il était boulanger, il avait fait ses pains le matin. Après, il est allé au stade, il a mis des gants.
Il était boulanger, il a fait le matin.
Je frappe, il cadre et que le goal il le laisse parce que c'est Cristiano, ça compte pas.
Comment on savoir ça?
Dans le contrat en Arabie Saoudite, il doit mettre.
Moi, j'ai rien dit sur Messi, j'ai rien dit.
Mais j'ai rien dit. Mais demande-moi mon avis. Demande-moi mon avis, je vais te dire pareil. Non, mais arrête.
Inter
Miami, on les a vus cet été contre Porto, ils ont gagné, tu vois.
Moi, je les ai vus en Coupe du Monde des clubs aussi.
Ils ont été à la ramasse.
Ils sont qualifiés pour les 8e, les gars.
Moi, j'ai vu Al-Hilal battre Manchester City. Qu'est-ce que ça a donné, en fait?
Moi, j'ai vu Al-Hilal battre Manchester City.
Ah oui, Al-Hilal, c'est une sélection de joueurs.
Donc, tu vois, tu dois pas désinguer.
Il y a que des Européens. Sur 11 joueurs, t'as 9 Milinkovic-Savic, t'as 9 Européens.
Al-Nasr, là aussi beaucoup.
Oui, les 3-4 clubs, effectivement, les 3-4 clubs.
T'as Sadio Mané, t'as Kingsley Coman.
On va refermer cette. Là, on commence à s'éloigner du débat parce que là, on peut débattre encore pendant des heures. En tout cas, le Portugal sont imposés 1-0 face à Ruben Neves. Omar, on t'a pas laissé prendre la parole sur ce sujet. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Moi, je pense que toujours après, peut-être c'est en tant que fan du Real que je parle. Je pense qu'un Cristiano Ronaldo, c'est toujours utile. On l'a vu en finale de la Ligue des Nations face à l'Espagne. Au moment où on s'y attendait le moins, il a marqué. Moi, je pense que Ronaldo, rien que par sa présence et ce qu'il représente, ça fait peur forcément aux défenseurs. Et donc, je pense qu'il peut apporter, quoi qu'il arrive, sa pierre à l'édifice, que ce soit à la première ou à la 90e minute. Donc, je sais que voilà, c'est un gagnant. Et je pense qu'il a la mentalité. Il peut emmener le Portugal très, très loin en 2026. Et je n'en doute pas.
Merci Omar.
Après, je pense pas Lucas
soit mitigé, mais on va pas rouvrir le débat. Merci Omar.
Je suis très mitigé.
Je pense qu'aujourd'hui, t'es Upamecano, Saliba. T'as peur de beaucoup de mecs avant d'avoir peur de Cristiano.
Ouais. Excuse-moi, Maxence. C'est peut-être pas sûr, mais on
leur posera la question.
Mais en tout cas, la Belgique, qui ont remis la tête à l'endroit et qui mène 2-1 face au Pays de Galles. Ouais, qui avec grâce à un but de Kevin De Bruyne et De Bruyne, du coup, pour l'instant, et de Thomas Meunier. Du coup, pour l'instant, la Belgique qui sont repassés premiers parce que la Macédoine du Nord font nul contre le Kazakhstan. Du coup, là, pour l'instant, Belgique, premier. Il n'y a pas trop de crise pour l'instant, si ça reste comme ça, en tout cas. Nous allons poursuivre avec l'Allemagne qui se sont imposés 4-0. L'Allemagne qui font 0-0 pour l'instant contre l'Irlande du Nord. L'Allemagne aussi, hein, c'est assez difficile, l'Allemagne. En fait, c'est dur à savoir ce qu'ils font.
C'est
décevant, un peu, comment.
Ouais. C'est...
Pourtant, ils ont un banc, mais...
Ouais, ils ont un bon, ils ont des joueurs de qualité, franchement, même quand tu regardes Kimmich, Voltemade aussi à Newcastle qui fait des débuts explosifs, voire canon. Moi, j'ai du mal un petit peu à cerner ce qui se passe avec cette équipe allemande. C'est un petit peu à l'image d'une autre grande nation comme l'Italie. J'ai l'impression que le problème, voilà, il est aussi mental dans leur équipe. À chaque fois qu'ils se font mener, en fait, ils s'effondrent totalement. Et je ne sais pas ce qui se passe à leur niveau, mais c'est inhabituel de voir l'Allemagne. En tout cas, moi, voilà, j'ai grandi dans les années 2000-2010. Franchement, l'Allemagne, c'était tous les jours minimum demi-finale, quoi, dans n'importe quelle compétition. Et les qualifications, ils écrasaient littéralement leurs adversaires. Et là, en fait, ces derniers temps, on les trouve moins impériaux. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant le Final Four à la Ligue des Nations. Ils se sont effondrés, contre l'Espagne et ils se sont effondrés aussi contre la France. Donc, franchement, ouais, cette équipe, moi, elle m'inquiète. J'ai vraiment pas confiance, en plus, au vu des derniers résultats qu'ils ont eu à la Coupe du Monde. Ça veut dire premier tour en 2018 et premier tour aussi au Qatar. Je me demande s'ils vont pas faire une troisième fois premier tour. Voilà ce qui est pour moi en rapide sur l'Allemagne.
Merci, Omar.
Ouais, moi je trouve que l'Allemagne c'est très compliqué, hein. De toute façon Nagelsmann à un moment il avait poussé un coup de gueule parce qu'il a dit carrément qu'il allait remanier l'effectif parce que là après la défaite contre la Slovaquie je crois
c'était
franchement l'Allemagne, mais par contre là où l'Allemagne il me déçoit c'est que ça n'a pas évolué sur le nombre d'occasions loupées. J'ai l'impression que cet aspect là depuis qu'il y a les Leroy Sané et tout depuis l'époque ça n'évolue pas. Ils ont besoin de peut-être 18 occasions pour mettre un but. Ils tombent contre des équipes plus faibles, et ben ils vont leur mettre un direct, ils courent après le score. Il y avait même, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, ben pareil, encore la Macédoine du Nord, qui menait, je crois, 1-0 contre l'Allemagne pendant je ne sais pas combien de temps. Ils ont marqué dans les deux dernières minutes pour arracher la victoire. Mais c'est chaque année, l'Allemagne, c'est compliqué. Et là, il y a beaucoup de jeunes. J'ai l'impression que les jeunes, soit ils ne sont pas finis, et du coup, il manque quelque chose, une certaine grinta, alors qu'ils ont une défense aussi catastrophique.
Moi, je pense que c'est aussi un manque de qualité. C'est qu'un creux générationnel. Enfin, ça arrive à tout le monde.
Ils sont
la France
bons
l'a connu aussi à un moment.
Il manque quelque chose.
Mais même, enfin, ils sont beaux techniquement, mais il n'y a plus les joueurs qu'il y avait il y a 10 ans. Enfin,
oui.
Tu regardes.
Mais là, c'est des joueurs de seconde zone.
Défensivement,
beaucoup,
voilà. Et puis même offensivement, ouais, tu joues avec du Gnabry.
Virts Moussiala, quand même, c'est.
Virts Moussiala, c'est les deux seuls qui sont très forts. Sinon,
si tu te mets bien en condition, ça suffit à faire une très bonne équipe. Hein.
Bah déjà, Virts, là, il est dans le trou par rapport à.
Pour moi, défensivement.
L'autre, il est blessé. Donc,
défensivement, tu vas avoir des lacunes. En 2014, t'allais avec Hummels, Boateng, Neuer. C'était ton trio défensif.
Et Kimmich. Moustafi.
Enfin, c'était quand même très très costaud. Là, t'arrives avec des mecs.
Là, derrière, c'est Middlestadt, des gars de Stuttgart.
Exactement, c'est
le milieu moins en fait. Et Rudiger qui ne montre pas l'exemple. C'est compliqué.
C'est compliqué, en tout cas.
Ouais. Rudiger, ouais, catastrophique.
Ah, ouais. Surtout son match contre la Slovaquie, là. Ah, c'était compliqué.
En ce moment, il prend l'eau un peu partout. L'Espagne qui se sont imposés 2-0. Hein. Cette journée a été un peu magique, hein, entre guillemets. Hein. 5 pénaltys tirés, 5 pénaltys loupés. Hein. Aucun pénalty n'est rentré, mais hier même, 6e pénalty loupé de suite. Hein. Là, je pense que c'est Kevin De Bruyne qui vient interrompre un peu cette série. Parce qu'hier aussi, Madjer a loupé son pénalty avec le Danemark. Qu'est-ce que vous pensez aussi de l'Espagne, hein, qui ont peiné quand même un peu. Ils se sont imposés 2-0. Ils ont eu des occasions, mais... c'est très poussif aussi.
Ah, moi, dans le jeu, je trouve qu'il y a un monde entre l'Espagne et les autres. C'est-à-dire que même en gagnant 2-0 contre la Géorgie, dans la circulation du ballon, dans la maîtrise, dans les occasions créées, dans le fond de jeu, en fait, ce qu'on voit, malgré le fait qu'il y ait des absents, tu joues avec du Ferran Torres, du Oyarzabal, du Pino, c'est pas des stars mondiales, mais la différence qu'il y a entre, dans le jeu entre l'Espagne et les autres, c'est assez dingue. Et d'ailleurs, hier, j'entendais ça et on disait l'Espagne, elle est sur 90 minutes, c'est quasiment imbattable. C'est-à-dire que toutes les dernières équipes qui ont sorti l'Espagne, c'est au tir au but, dans des matchs où tu fais le bus comme le Maroc l'a fait à la Coupe du Monde. En Ligue des Nations, ils perdent encore au tir au but. En 2018, contre la Russie, ils perdent encore au tir au but. Donc, je pense que sur un match de 90 minutes, c'est... Enfin, je vois pas qui est en capacité de sortir cette Espagne-là. Sauf match de folie avec des rouges, avec tout ça. Mais sinon, sur un match classique, je vois pas qui peut les sortir en tête à tête.
C'est pour ça que je suis pressé de voir Espagne-Argentine. Parce que là, ils l'ont placé, là. Espagne-Argentine, je crois que c'est après janvier, un truc comme ça. Ils l'ont placé en super coupe, je sais pas quoi.
On n'en peut plus de ces matchs-là, par
contre. Mais moi, c'est juste pour voir, parce que pour moi, c'est les deux nations en ce moment qui sont terribles.
Il y a une différence énorme. C'est un truc quand je vois l'Argentine jouer et l'Espagne, ça n'a rien à voir.
Non, pas dans le jeu, mais l'Argentine, peut-être que le jeu est moins flamboyant, mais c'est une équipe quasiment impossible à battre, l'Argentine. Et qui les a battus dernièrement? Depuis la Coupe du Monde, ils n'ont pas perdu.
Mais ils ont joué contre qui? Bolivie, Pérou?
Oui, ils ont joué le Brésil.
Mais même le Brésil, tu vois, le Brésil d'aujourd'hui. Le Brésil d'aujourd'hui, il joue contre le top 5 en Europe, il se fait éclater.
Oui, je suis d'accord. Mais pour moi, franchement, l'Argentine, ça reste une équipe redoutable.
Le Brésil, franchement.
C'est vrai que. Je vais dans ce sens. L'Argentine a l'impression que depuis qu'ils ont fini par, après beaucoup d'échecs en finale de Copa América, depuis qu'ils ont fini par la gagner et qu'ils ont fait sur la Coupe du Monde, on dirait qu'ils ont une confiance inébranlable. Et donc effectivement, ils seront parmi les favoris. Mais moi, même l'Espagne, je les vois battables parce que c'est vrai qu'ils ont un fond de jeu. C'est la seule équipe qui a vraiment des certitudes collectives. À part ça, en vrai, quand une compétition internationale commence, les cartes sont un peu rabattues à chaque fois. Et je ne suis pas sûr que l'Espagne, avec des joueurs qui jouent beaucoup, avec les forces en présence qu'ils auront et les puissances émergentes du football, moi, je ne vois même pas l'Espagne comme favori à la prochaine Coupe du Monde.
Oui, parce qu'en fait, il y a un truc qu'on oublie, en fait.
Pas en favori, y a un truc qu'on oublie, intouchable,
en fait.
On va dire.
Ben, comme on dit, en fait, il ne les voit pas, en fait. Genre, en fait, le super favori, en
voilà,
fait.
Voilà, c'est ça, exactement.
Genre, il ne peut pas déjà les annoncer gagnants. Mais un truc qu'on oublie, en fait, souvent, suite à ce genre de compétition, les équipes qui la gagnent, c'est les équipes qui montent en puissance. C'est des équipes souvent qui ont des débuts, en fait. Tu vois, comment on regarde la Coupe du Monde 2022. L'Argentine, déjà, l'Argentine perd son premier match face à l'Arabie Saoudite. Critique sur critique. Après, tu vois, en fait. Donc, du coup, ce genre de compétition, c'est pas qu'en fait que tu fais les meilleurs qualifs ou tu as été régulé sur une longue période. Non. C'est pendant la compétition que la moindre est fatale. Et comme on l'a regardé sur les deux dernières Coupes du Monde, on a vu que les équipes qui étaient tant annoncées ont floppé, en fait. Quand on prend celle de 2018, waouh, c'était un parallèle de l'Allemagne et tout ça, oui, c'était un, voilà, d'autres parallèles de l'Angleterre, mais au final, en fait, ça donnait quoi? Ça n'a rien donné. Donc, tu vois, comme on dit, et moi, sincèrement, je n'étais pas prêt à mettre ma main au feu plutôt pour parier sur l'Argentine, pour dire que l'Argentine gagnerait la Coupe du Monde 2022. Non! Je t'imagine, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est Kolo Muani Lamine, là, on n'en parle plus.
Non, mais à la base, ils font partie d'un
pool de... Parce que j'ai encore ce somme-là.
À la base, ils font partie d'un pool quand même de 5-6 favoris, où tu sais que... Bah, la France aussi, d'ailleurs, mais tu sais qu'il y a la France, il y a l'Argentine, il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne, il y a peut-être le Portugal. Voilà, tu sais qu'ils font partie de cette zone-là. Et globalement, pour la Coupe du Monde, là, tu sais, tu ne vas pas mettre ta main au feu sur une équipe. Mais si tu dois en citer 5, tu ne vas pas te tromper de beaucoup. Normalement, tu auras le vainqueur là-dedans.
Mais tout le monde met les ans, tout le monde met l'Angleterre.
Jamais,
champion,
moi je l'aimais pas. Moi.
Et au final,
et ça donnerait en fait.
Déçus.
Oui, oui. Oui.
Bah, je pense que là, comme on s'y attend un peu, que
on
ça
s'y attend
pas
moins.
Eux qui font un truc.
Et peut-être
ils
imagine que c'est là
ils
que.
Surprendre, attention. Avec Tourelle, même si ça gagne pas bien, Tourelle a la facilité d'aller au bout de ses compétitions. Et là, il peut être le voilà.
Après, c'est très tendu l'Angleterre là. Il a pas pris Bellingham. Il a pas pris Bellingham parce que place dans le vestiaire, etc. Il y a eu des déclarations un peu compliquées. Il a dit quand ma mère elle regarde Bellingham, c'est un cauchemar, c'est infernal, etc. Son comportement, tout ça. C'est on n'en parle
pas
trop parce que c'est.
Il est pas beau avoir joué.
Après,
on n'en parle pas parce que c'est Angleterre. Mais si Deschamps disait ça sur Mbappé,
après,
ça serait la folie. Hein.
Mais en fait, c'est plus parce que Tourelle, on a l'habitude. Tu vois, moi, ça me surprend pas.
Bien sûr.
Comme je t'ai dit, Tourelle, en fait, il veut être le leader et il veut se mettre tout le monde à dos, quitte à se mettre ses propres employeurs à dos, mais il va se dire sur le terrain, je vais faire le taf.
Mais ça peut être un bon lobby.
Il a pas pris Grealish, il a pas pris les mecs en forme. Ouais. En fait, il a dit je constitue avec la même équipe. qui était dans la sélection en septembre, parce qu'il y avait une bonne homogénéité. Il a dit, je reste comme ça. Donc, star ou pas star.
Il y a des gros Foden, problèmes dans le groupe avec Bellingham et notamment sa famille, etc. Ouais. Donc, lui, il n'a pas envie de se...
Il nous fait une déchance, là.
Mais je sais pas comment il va se sortir de ça.
Il sera obligé. Il sera obligé de prendre...
On n'est jamais obligé de rien.
Franchement,
Benzema a raté des Coupes du Monde avec la France.
Après, ça, c'est... Je pense qu'il le prendra, mais par contre...
C'est différent. Si Bellingham retourne son niveau d'attente... Pas tous en même temps, s'il vous plaît.
Si Bellingham retourne son niveau d'attente, je crois pas qu'il y aura débat sur sa présence en équipe.
Mais je pense qu'on sous-estime l'image de Bellingham en Angleterre. Elle est catastrophique. Son image, elle est catastrophique. Ouais, bon, notamment celle de ses parents.
Ouais, ben oui, en fait, à un moment donné, ouais, c'était un peu parlé, en fait, du côté image et tout ça. Mais on a foot déjà, en fait, pour jouer. En fait, le foot, ça se passe sur le terrain.
C'est-à-dire bah, le côté vestiaire.
Oui, oui, en fait, il n'y a pas que le terrain, en fait. Il y a aussi l'image aussi à présenter parce qu'en fait, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, Bellingham, voilà, c'est en fait, c'est une figure imposante du côté de l'Angleterre et tout. Mais il y a, comme vous avez dit, il y a son image aussi qui compte. Mais si vraiment il est très bon, je vois pas pourquoi il pourra s'en passer. Peut-être juste qu'il y aura peut-être des certains recadrages, mais si Bellingham il revient comme il était là il y a 2 ans ou un an, je crois pas qu'il pourrait s'en passer.
Il y a 25 mecs qui doivent vivre
attends,
ensemble.
Attends, Maxence. Merci, chez Kenza. On va passer à la suite hein, parce que le temps file. La Norvège, hein, Erling Haaland qui est en train de tout exploser avec la Norvège, tout simplement. La Norvège qui pourrait participer à leur première Coupe du Monde, en tout cas, pour Erling Haaland, en tout cas, et qui pourrait tout simplement, oui, c'est presque acté avec 29 buts inscrits.
Ouais, mais avec le nombre, c'est une machine à but. La différence de buts.
Oui, avec la différence de buts, c'est. Oui, après.
Jamais football, ils vont les jamais, battre voilà. 19-0 l'Italie après
29
retour.
Buts en 6 matchs hein, et l'Italie qui sont imposés face à l'Estonie 3-1 très rapidement on va prendre et les Basques qui marchent sur l'eau hein, Pays-Bas aussi on n'en a pas beaucoup parlé mais Pays-Bas en tout cas 2x4-0 face à Malte et à la Finlande Pays-Bas ça file tout droit pour l'instant en tout cas qu'est-ce que vous avez à dire sur la Norvège est-ce qu'il peut faire son petit bout de chemin Erling Haaland parce que c'est bien ce qui lui manque hein, et c'est bien ce qui lui a manqué aussi pour le Ballon d'Or on suppose la Norvège c'est très compliqué Omar.
Oui, en tout cas, je suis impressionné parce que je ne pensais pas qu'ils allaient faire aussi beau parcours des qualifications. En tout cas, voilà, Haaland, il poursuit sa lancée. C'est quand même une machine de guerre. Moi, je trouve qu'on a été vraiment injuste avec Haaland l'année dernière parce que, bon, certes, il a eu, on va dire, un coup de moins bien, mais quand même, sa saison, elle reste correcte au vu des attaquants.
Plus que correct, quand même, oui.
Voilà,
plus que correct. Il reste dans le top 4. Quoi.
Voilà, il reste dans le top 4. Et là, voilà, il poursuit en tout cas dans sa lancée, toujours aussi décisive. Et là, j'ai l'impression qu'il porte la Norvège à lui tout seul quasiment pour les emmener au mondial. Après, au niveau du mondial, est-ce que ce sera suffisant? Parce que, certes, c'est un grand attaquant, mais pour moi, tu vois, c'est comme ça que je vois le foot. Pour gagner, il faut vraiment une grande compétition. Il faut avoir un grand attaquant, mais aussi un grand gardien.
1-0 pour l'Islande.
On a vu Maxence, mais on attend juste qu'il termine sa déclaration.
Du coup, je me dis, est-ce que défensivement, la Norvège, ça va faire le taf, tu vois? Et c'est toute la question, elle est là pour moi.
En tout cas, pour l'instant, c'est bien parti. Avec Sorloth, il manquait un peu Odegaard, mais pour l'instant, ils ont quelques joueurs hein, qui...
Oui, après, ça reste des joueurs quand même offensifs, là, sur ce que tu viens
c'est
de
ça,
citer.
Ouais. Ouais, défensivement, c'est un peu plus...
Défensivement, peut-être il y a Oscar Bob à City, c'est mais ça. Sinon...
Rierson qui joue à Dortmund aussi.
Après, oui, devant, ils n'ont que des prospects.
Voilà.
Avec Antonio Moussa.
Oui, mais pour avoir un bon équilibre, déjà, il faut aussi, il n'y a pas que en fait, l'attaque, aussi, il faut la défense. En fait.
Voilà,
déjà aussi, il faut avoir un très grand gardien parce qu'on oublie, en fait, une compétition, si ça se gagne aussi avec un gardien aussi qui est phénoménal aussi dans les buts. Parce que n'oublie pas que, oui, dans un match, on peut avoir une période best, en fait, une période dans laquelle on n'est pas bien, on peut subir des occasions. Donc, la défense aussi, elle est aussi importante que l'attaque pour gagner une compétition.
Merci, chez Kenza. L'Islande qui ont ouvert le score hein, face à la France. 1-0 pour l'Islande. La France qui sont menées dans ce match-là. Hein, voilà. Il n'y a pas de match facile. En tout cas, c'est encore ce qu'on est en train de voir. Malgré les stats, en tout cas, on peut croire en la domination des Français, mais c'est une domination assez timide, Lucas.
Assez stérile, ouais. Assez stérile. Il y a peu d'occasions. Pas d'occasions franches, donc on va voir. Mais c'est pas totalement illogique ce qui se passe pour le moment.
Merci en tout cas, Lucas. On va se faire une petite pause avant de revenir qualification Coupe du Monde Afrique. Les Black Stars de retour qui se sont fait pardonner aussi par leurs supporters, en tout cas, depuis la non-qualification à la CAN. Du coup, là, ces qualifications en Coupe du Monde, ils reviennent et on est obligé de repenser un Black Star. Quand on repense au Ghana, on est obligé de repenser au fameux match de Suarez et de cette demi-finale. On y revient juste après la pub.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour dans les locaux de Mon Paris FM, il est 21h27 si vous nous suivez. La France sont en train de perdre tout simplement face à l'Islande. Hein. On espère que le match va s'inverser. Là, on part côté Afrique. On peut penser à beaucoup d'équipes. Hein. Chez Kenza, la Côte d'Ivoire, qui ont leur destin entre les mains, en tout cas pour l'instant. La Côte d'Ivoire qui joueront demain face à...
Au Kenya
et qui devront s'imposer pour espérer, en tout cas, non, même pas pour espérer, pour être qualifié.
Parce qu'en fait, le groupe est tendu, en fait, oui, parce que déjà, il y a un point d'écart entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, donc qui sont notre dauphin. Je crois que vraiment, en interne, ça parle beaucoup, en fait, de cette qualification déjà. Tu imagines les champions d'Afrique qui participent à la Coupe du Monde, ça serait une désillusion, en fait, ça serait un désastre. Et déjà, par le passé, on en a manqué deux. Donc, je crois que MS Faye est un homme averti. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Donc là, on a deux MS Faye. Donc, il se doit vraiment de nous donner une compo vraiment la mieux adaptée. Voilà, parce qu'en fait, on joue à la maison. Donc, déjà, une non-qualification à la maison, ça serait en fait terrible. Mais vu le dernier match de l'équipe de Côte d'Ivoire, je crois que oui, c'est possible qu'il le fasse. Comme au football, il ne faut pas mettre les pendules avant l'heure. Et c'est possible qu'il le fasse parce que j'ai senti vraiment une équipe dévouée dans le jeu. Voilà, on a vu ces phases de jeu qu'on avait et tout ça. Il avait mis ses cadres au repos. Donc, disons que oui, c'était une équipe un peu bis, en Willy Boli comme capitaine et tout ça. Dans l'entre-jeu, oui, il y a eu des nouveaux, comme des basements à Touré. On a eu quelques joueurs. Après, oui, il y a ces temps aussi qui ont un peu, qu'on peut louper les chances, comme Evan Nguessan et tout ça. Même s'il a marqué un but, mais il n'a pas été, en fait, c'est pas ce à quoi on s'attendait, tout ça, pour prétendre une place à être titulaire dans le 11 de départ. Là, vraiment, je crois qu'on a les chances vraiment de les battre, le Kenya, oui. Même si c'est une équipe déjà, en fait, comme a dit, en fait, c'est une équipe à bloc bas et tout ça, qui sont très bons en contre-attaque et tout. Donc, au match aller, oui, même s'il n'y avait pas eu, en fait, un grand écart dans le jeu, la Côte d'Ivoire. Mais avec vraiment la nouvelle liste qui a été annoncée, il y a eu tellement de joueurs. Moi, vraiment, si un mot a dit, en fait, le joueur qui m'a le plus tapé à l'œil, ça a été vraiment Yann Diomandé. Leipzig, vraiment, qui a fait vraiment un très beau match. Il a été phénoménal. Il marque pour sa première et tout. Et aussi, Basman a tourné au milieu. Bon, après, les autres, c'est des cadres qui ont fait le taf. Il y a Sangaré, Kamak et Kissi. Donc, ça a été
merci,
vraiment...
Shekinza. Ta brèche, Shekinza, tu nous fais vraiment tout. On va te redonner la parole. On va discuter. Mais voilà, il faut que ça soit un échange. Ça ne peut pas être un monologue. Tu comprends, Shekinza. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce qu'il en est, en tout cas, pour la Côte d'Ivoire. Le Nigeria. Bah, on va parler du Gabon, déjà, par poule. Le Gabon qui fait une très belle campagne aussi en qualification de la Coupe du Monde. Aubameyang, auteur d'un quadruplé. Mais... qui entache un peu sa prestation avec le carton rouge. Du coup, on sait qu'on ne pourra pas compter sur lui sur le dernier match. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça, très rapidement, pour qu'on passe à la suite, Omar ?
Oui, après, je trouve que le Gabon, pour moi, a fait un parcours de qualification correct. Concernant Aubameyang, moi, je trouve que, bon, après son carton rouge, bon, ça peut arriver, c'est des choses, on va dire, évitables, mais ça n'enlève en rien sa prestation. Que moi j'ai trouvé exceptionnel. Et voilà, on voit bien que c'est un leader. On a un Gabon avec et sans Pierre-Henrique Aubameyang. Donc le Gabon, voilà, je pense qu'ils vont prier pour espérer une contre-performance de la Côte d'Ivoire. Et si ça n'arrive pas, je pense qu'on va les revoir pour le match de barrage.
pour les battre du barrage parce que ça ne sera pas terminé. Hein. Ce sont les meilleurs deuxièmes. On rappelle, hein, les quatre meilleurs deuxièmes sont qualifiés, mais le Gabon est le meilleur deuxième de tous les deuxièmes. Du coup, c'est pour ça que le Gabon y sera forcément, en tout cas, au barrage au minimum. On a pu voir le Nigeria, hein, qui se sont mis un peu, qui sont pris un peu les pieds dans le tapis. Nigeria, qui peuvent y croire, mais c'est selon des calculs. Qu'est-ce que vous pensez un peu de Nigeria ? Est-ce qu'une équipe comme le Nigeria, qui a été finaliste quand même de la Coupe d'Afrique dernièrement, est-ce qu'ils peuvent se permettre d'être à ce stade-là, à ce niveau ?
Bah, ils avaient tellement mal commencé leur campagne de qualification que ce n'est pas étonnant. Ils se sont bien rattrapés sur les derniers rassemblements, mais ils avaient tellement de retard. On sait qu'il y a beaucoup de matchs sur la zone Afrique, c'est un peu un marathon. Et du coup, ils avaient tellement mal commencé leur campagne que c'était compliqué pour eux de revenir. Là, effectivement, tu l'as dit, il faut qu'ils gagnent en espérant un résultat favorable. Donc, ils n'ont même plus leur destin entre les mains pour se qualifier. Moi, je n'ai aucun mal à imaginer le Nigeria comme grand absent africain de cette compétition. On voit par exemple qu'il y a des équipes qui reviennent bien. On pense aux trois équipes Maghreb, même si le Maroc c'était attendu. L'Algérie qui s'appuie sur un jeune vivier va aussi être intéressant. Mais moi je vois, ouais, le Nigeria, moi je me suis presque fait à l'idée qu'il ne soit pas à la Coupe du Monde.
En tout cas, ça va être... En tout cas, le Nigeria devront battre les premiers de la poule qui sont le Bénin.
C'est ça.
Et ils devront espérer que l'Afrique du Sud ne bat pas le Rwanda. Voilà, ça fait des calculs en tout cas, ça fait des calculs. Mais pour eux, en tout cas, la mission c'est de battre parce que même avec 17 points, ils seront pas parmi les meilleurs deuxièmes. Ouais. Du coup, c'est soit ils termineront premier, soit ça va être très compliqué. Et il me semble qu'il y a eu une perte de points dans ce groupe.
Avec l'Érythrée.
Comment ?
Avec l'Érythrée qui a été. C'est ça ?
Non, je crois que c'était l'Afrique du Sud qui a aligné des joueurs non éligibles. Et du coup,
ils ont perdu sur tapis vert.
Ils ont perdu.
Donc, du coup, c'est
ce qui a fait redistribuer un peu les cartes et ce qui a rapproché un peu plus le groupe. C'est bien ça.
Mais après, concernant le Nigeria, on peut se demander comment, avec une telle armada offensive, quand on pense à des Osimhen ou des Chukwueze, peuvent rater aussi une compétition aussi prestigieuse que le mondial. Je pense qu'il y a un problème aussi de déséquilibre au sein du Nigeria.
Exactement ce que j'allais dire.
Voilà, on a une attaque surchargée et voilà, à l'inverse, c'est très faible. Ça manque de présence derrière notamment, même si on a le joueur de Fulham, j'ai oublié son nom, c'est Calvin Basset, je crois, oui, si je ne dis pas de bêtises. Mais excepté ça, on avait un Trostekong Kong, mais je ne sais plus s'il est en forme, parce que voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Mais le Nigeria, défensivement et même au milieu de terrain, c'est problématique.
C'est pas du même niveau que l'attaque. Ouais.
Merci en tout cas pour cette poule. Le Sénégal qui sont imposés face au Congo dernièrement, hein, c'était le match un peu un match renversant, hein, Congo qui menait 2-0 et le Sénégal
Congo,
qui sont imposés
saboté, hein.
3 buts à 2. Oui, en tout cas là, le Sénégal qui sont premiers avec 21 points et le Congo deuxième avec 19 points. Le Sénégal, bon, même un match nul avec la différence de but. Avec un match nul, ça devrait le faire.
Là, ils n'ont pas droit à l'erreur. Là. C'est après avoir fait cet exploit, alors qu'ils étaient mal embarqués dans cette poule avant d'aller jouer au Congo, ils ont fait tout ça. Il ne faut pas qu'ils gâchent sur le dernier match face à la Mauritanie, à domicile en plus.
Là, la Mauritanie, c'est les cousins. Donc,
les cousins, mais le football, vraiment, voilà, peut-être que pour l'honneur aussi, la Mauritanie peut essayer de chercher un résultat. Vu que déjà, ils sont mal classés. Mais je vois pas vraiment, le deuxième Gaïdé aller perdre vraiment ce match-là. Je les vois pas vraiment parce que là, ils ont fait le taf. Déjà passé devant le Congo qui était favori. Et même quand on regarde le match, le Congo vraiment les a archi-dominés. Après, il y a eu ce sursaut d'orgueil en fait. Quand tu as Sadio Mané et tout ça, et tu sais que vraiment les 10 derrière, ils sont prêts vraiment à l'eau charbon pour lui. Donc, ce sursaut d'orgueil qui a été vivre et tout ça. Avec la nouvelle génération, je ne les vois pas vraiment louper cette chance-là avec, comme on dit, la nouvelle génération, les Limandia et tout ça. Il y a tellement de jeunes qui sont arrivés et tout ça. Pour la génération Sadio Mané, ça va, ils ont déjà joué deux Coupes du Monde et tout. Mais la nouvelle génération, en fait, c'est une chance à ne pas bâcler. Donc, je crois que vraiment, ils ont le mental pour aller vraiment en Coupe du Monde.
Dans tous les cas, s'ils terminent deuxième, ils seront dans les meilleurs deuxièmes.
Mais là, vraiment, oui, les meilleurs deuxièmes,
oui,
c'est...
Ils seront dans les meilleurs deuxièmes. Mais... Oui, certes, ils seront dans les meilleurs deuxièmes, mais ça sera un barrage à jouer encore. Enfin,
ah oui, il y a tellement de trucs.
Ah, si tu termines deuxième, t'es pas qualifié d'office.
Non, non. Tu fais un Final Four entre les quatre meilleurs deuxièmes. Ils font un Final Four entre eux.
Et après, ils vont jouer le vainqueur de l'Océanie, de la zone océanique, c'est ça.
Sachant qu'il n'y a pas l'Australie, donc ce sera Nouvelle-Zélande ou...
Ça devrait être un match, a priori, l'équipe africaine sera favori pour ce match-là, a priori. Ouais.
Bon, au football, les favoris, c'est il n'y a pas de logique.
En tout cas, ça reste encore un match en plus de ce qu'il en est. Et le Congo, qui doivent espérer, tout simplement, qui doivent s'imposer face au Soudan et qui doivent espérer une défaite du Sénégal, tout simplement. Sinon, ils pourraient être qualifiés aussi comme meilleur deuxième aussi. Le Cap-Vert qui ont créé l'exploit, Cap-Vert qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Hein. Ouais. Le Cameroun deuxième, voilà. Cameroun, Cameroun ne joueront même pas les barrages. Hein.
C'est pas terminé,
mais c'est pas.
C'est très mal embarqué.
C'est très mal embarqué parce que voilà, à partir de 19 points, là ils ont 19 points, il y en a qui ont 20, 21 ouais. et qui ont encore des matchs en moins. C'est voilà et 4, ça va très vite. Du coup, le Cameroun qui peuvent rester aussi à la maison.
Oui, déjà, je voudrais quand même féliciter le Cap-Vert, quand même, voilà, pour un pays de 500 000 habitants. Ils ont quand même réussi l'exploit à terminer devant le Cameroun. Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, quart de finaliste.
6 participations à la Coupe du Monde.
Voilà, 6 participations à la Coupe du Monde, quart de finaliste en 90. C'est quand même un gros de ce continent. Voilà, et du coup, quand même, ils ont réussi l'exploit, le Cap-Vert notamment, à battre le Cameroun chez eux à domicile et à les tenir en échec là-bas à Yaoundé. Donc, pour moi, je pense que le Cameroun, il y a aussi un problème de renouvellement, même s'ils ont des joueurs comme Carlos Baléba, mais j'ai l'impression que le renouvellement ne se fait pas assez vite. Au niveau de leur génération, il y a beaucoup de creux, on va dire. Il y a beaucoup de manques, même si là, il y a le joueur qui est en Espagne, je crois que c'est, j'ai oublié son nom.
Oui, l'attaquant de Villarreal. Ouais,
Et il a Levante, je crois.
Voilà, exactement. Et Young, il y a Carlos Baléba. Bon, après, on a toujours des anciens comme Zambo Guissa, mais c'est compliqué en ce moment.
Il y a Aboubakar. Voilà.
Moi, quand je vois Aboubakar et je vois son match contre le Cap-Vert...
Il est temps de partir.
J'ai l'impression que c'est CR7.
il est temps.
Merci en tout cas pour cette comparaison. Je suis obligé de revenir. Oui.
J'allais juste dire à moi, on a parlé un peu sur le Ghana, qui est le grand absent de la prochaine CAN et qui est bien revenu, qui a battu les Comores 1-0 hier. Et on voit que du coup, eux, ils ont eu pour le coup un vrai creux générationnel, avec, à part les frères Ayou qui sont là sans discontinuer depuis 15 ans, avec Jordan qui est encore capitaine hier soir. Mais voilà, avec les Kudus qui est arrivé, avec Thomas Partey qui tient la baraque, Semenyo de Bournemouth qui fait vraiment un début de saison exceptionnel en Première Ligue, on a l'impression qu'enfin le Ghana repart et j'espère qu'ils feront une belle Coupe du Monde. Voilà.
Mais là où je tenais à dire aussi par rapport au Cap-Vert, là où tu te dis que je pense que c'est écrit pour qu'ils y aillent, c'est quand tu vois l'égalisation, là, je ne sais pas, vous avez vu le but de l'égalisation sur le dernier match
contre
la Libye, où le gardien il veut choper la
balle. Ah oui, c'est n'importe quoi. Sur un dégagement de 50 mètres, voilà, là.
Ce qui me choque, excuse-moi de t'interrompre, Jason, mais ce qui me choque encore plus, moi, c'est la question que je voulais vous poser. Hein. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il n'y ait pas de VAR côté qualification Coupe du Monde quand même, hein. On parle de ça, oui, en Afrique, zone Afrique, il n'y a pas de VAR. Oui, mais est-ce que ça ne serait pas est-ce que c'est juste,
tout les règles devraient être les mêmes pour tout le monde, donc voilà. Non, c'est pas normal.
Voilà, du mais coup c'est soit normal. VAR nulle part, soit
du coup,
VAR
faudrait
partout.
L'enlever, mais en fait c'est que les qualifications partout. Ouais, mais c'est que les qualifications dépendent de la confédération.
Oui. Donc en fait, les confédérations peuvent se mettre d'accord.
Oui, la CAF
pour avoir les mêmes trucs. Parce que par exemple,
mais ce sera la CAF de la
là,
mettre. Du
heureusement,
coup.
Oui. Là, heureusement que là, oui, bien évidemment. Je ouais, dis ouais. pas.
Ah, aux autres de l'enlever.
Mais non, ce serait, ça, ce serait à la FIFA d'obliger juste, la CAF à le
voilà,
mettre.
Voilà, c'est ça en fait. C'est exactement ça. C'est leur boulot. Parce que on a vu des choses qui ont changé un peu les cours des matchs.
Et beaucoup
on
pense, de justice.
On pense notamment le Cap-Vert. Là, heureusement, le Cap-Vert, ça finit en beauté.
Parce que sur la dernière action, il paraît
dernière action, il n'y a jamais hors-jeu.
Ouais, il n'y a pas hors-jeu.
Ils doivent gagner le match. Ils doivent déjà être qualifiés en train de faire la fête au Cap-Vert. Vous voyez. Du coup, il y a des choses comme ça. Aujourd'hui, on va revenir, hein, Omar, le Mali ne sont pas qualifiés. Mais on pense notamment quand on dit à 1-2 points, ils auront pu même gratter les barrages. Ils ont marqué contre la Centrafrique un but injustement refusé pour un hors-jeu qu'il n'a jamais existé. C'est des petites... Voilà, et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas la VAR, ça fait déjà ça...
Voilà. Arbitrage à l'ancienne.
Ouais. C'est compliqué.
Bah après, aussi, il faut voir aussi comment on homologue les stades en Afrique. Parce que voilà, il y a un certain cahier des charges. Je ne sais pas, vous avez vu, il y a plusieurs pays qui ont dû jouer au Maroc ou en Côte d'Ivoire parce que voilà, ils n'avaient pas de stade homologué.
Le Final Four aura d'ailleurs joué au Maroc, aura d'ailleurs lieu au Maroc pour les qualifications entre les meilleurs deuxièmes.
Exactement, exactement. Et du coup, en fait, ça, les stades, notamment, c'est entretenu souvent par, en tout cas en Afrique, par l'État. Et je pense que voilà, aussi, c'est un certain coût. Et du coup, je pense que pour limiter le coût, on n'a pas mis cette histoire de VAR et de vidéo, même si en soi, c'est pas ce qui coûte le plus cher dans un stade. Mais je pense que c'est aussi pour des raisons économiques qu'ils n'ont pas fait le nécessaire.
Oui, mais à ce niveau-là, est-ce qu'on doit regarder vraiment ce côté économique?
C'est la seule justification possible, je pense. Ouais, pour moi, c'est pas un choix. C'est forcément pas. Enfin, c'est un choix qui est guidé par des éléments, dont l'argent, je pense.
On va parler, Omar. Je suis obligé de te poser la question. Hein, toi, voilà, c'est le sujet qui fait mal. Hein. Ouais. Le Mali, encore, qui ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Hein. Encore une déception en plus. On les a vus hier cartonner Madagascar, 4-1. Même dans le jeu, c'était. Tu vois la différence, mais Madagascar, eux, peuvent prétendre à jouer les barrages. Enfin, même là, ça va être compliqué en vue du nombre de points de chacun. Mmh. Mais voilà, le Mali qui se retrouve quand même troisième de cette poule, hein, qui était peut-être assez à portée de main. Il y avait les Black Stars, il y avait Centrafrique, le Ghana. Mmh.
Pourquoi ? C'est ça la question. Après, voilà, je pense que, bon, quand on regarde au vu de notre parcours, on peut se dire, oui, sur le papier, techniquement, à part les Black Stars du Ghana, qui restent les Black Stars du Ghana, quoi qu'il arrive, 4 fois champion d'Afrique, on se dit, bon, normalement, le Mali devrait terminer, dans le pire des cas, deuxième, meilleur deuxième. Ça n'a pas été le cas. Pour moi, j'ai identifié 3 raisons. La première raison, bah, c'est le niveau des joueurs et de nos stars qui sont blessés ou qui sont sur le déclin physique. Je vais vous parler d'une seule stat qui fait mal. Il n'y a aucun joueur malien qui joue la Ligue des Champions cette année et ce n'était pas arrivé depuis 1996. Donc voilà, pour te dire quasiment 29 ans. Le deuxième élément, c'est l'instabilité technique. On a changé d'entraîneur, on a limogé notre ancien entraîneur, Eric Sécouchel. Et aussi, voilà, au niveau de certains matchs, on a fait des choix incohérents, notamment contre la Centrafrique. À chaque fois, on a joué avec un attaquant, alors que c'était une équipe en bloc bas. Du coup, on n'a jamais trouvé la solution. Et aussi, voilà, on a aussi nos entraîneurs. Ça, c'est le folklore au Mali. On aime bien inventer des systèmes de jeu qu'on n'a jamais essayé. On a mis un milieu défensif ailier gauche contre les Black Stars du Ghana au match retour contre Accra. Et on a vu que voilà, ça a tourné à la catastrophe. On a perdu 1-0. Et le troisième élément, c'est organisationnel, notamment le match aller contre Madagascar qu'on a dû jouer en Centrafrique. On est arrivé 9 heures avant le coup d'envoi. Donc voilà, c'est vraiment compliqué. Et quand tu cumules tout ça, que ce soit au niveau des joueurs, au niveau technique, au niveau organisationnel, c'est finalement logique que le Mali ne va pas en Coupe du Monde.
C'est finalement logique, selon toi, Omar. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi... On comprend, hein, 9 heures avant le coup d'envoi face à Madagascar, etc. Mais quand on repense qu'au bout de la 10e minute, Madagascar se sont retrouvés réduits à 10. Pendant plus de 80 minutes, tu as joué un match en supériorité numérique. Oui. Est-ce que ce match-là, il n'y a pas d'excuse? Est-ce que tu ne dois pas le gagner, tout simplement? Peu importe, avec un bout de tête, un bout de pied, n'importe comment, mais tu dois le gagner, ce match, non?
Oui, tu dois le gagner, ce match. Mais si tu mets, on va dire, pas mal de temps avant de faire des changements offensifs, on va dire plus de 60 minutes avant de faire des changements offensifs. Et c'est un match que tu dois justement gagner. Tu as perdu à Bamako contre les Black Stars. Donc normalement, tu dois jouer le tout pour le tout. Mais il y a une sorte de tâtonnement. Et c'est pareil aussi le match retour qu'on a eu à Accra contre les Ghana. On est mené 1-0 à la 58e minute. On doit absolument gagner. Et on a attendu à la 80e minute avant de faire des changements offensifs. Ça, il y a ça. Et il y a aussi effectivement le niveau de certains joueurs qui n'ont pas réussi. Et ça, c'est propre au Mali, à l'histoire du Mali, qu'ils n'arrivent pas à se sublimer quand il y a des grands matchs. C'est-à-dire, voilà, je peux même reparler du match contre la Côte d'Ivoire à la CAN 2024. Voilà, c'est propre à nous-mêmes. Après, j'espère qu'il y aura une remise en question de certains de nos joueurs et aussi voilà, du staff technique qui a commencé à se remettre en question et qui a commencé à rappeler certains joueurs, puisque voilà, pour faire bref, il y a eu aussi un conflit entre
la fédération
et les joueurs, les cadres. Voilà, et les cadres qu'ils avaient menacé de ne pas venir. Du coup, cette défaite contre le Ghana, c'est un mal pour un bien. D'un autre côté, c'est que voilà, les gens de la fédération, ils ont mis leur rancune de leur côté. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas faire sans ces joueurs cadres. Et les joueurs cadres, ils ont compris qu'aussi qu'ils avaient besoin de la sélection.
Et ce qui est fou avec Madagascar, quand même, c'est là que tu te dis que le foot, ça se joue aussi beaucoup dans la tête et dans l'envie. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs de N2 et de R1 qui évoluent à La Réunion.
Ouais.
Et t'imagines qu'ils jouent contre des professionnels et qu'ils arrivent à les tenir et certaines fois à battre ces équipes. C'est là que tu te dis que c'est fort.
Oui, comme tu as dit, en fait, le football, en fait, je crois que c'est plus... En fait, les jambes, certes, mais il faut une tête aussi pour guider les jambes. Comme tu as dit, ça se joue plus au mental. C'est-à-dire déjà quand on est mieux préparé mentalement. Tu vois, en fait, on met tout de son côté vraiment pour, voilà, pour mieux jouer le match. Et en fait, si on suit vraiment les consignes, il est tactique. Comme tu as dit, en fait, le problème du Mali, il y a aussi, en fait, comme tu as dit, au niveau de l'encadrement et puis au niveau de la fédération, à un moment donné, ça commence à faire grincer les dents du côté de Bamako. Parce que tu imagines que le Mali, en fait, c'est des générations, c'est des générations qui n'arrivent pas à franchir un cap. Et ça commence à parler, que ce soit la CAN, que ce soit la Coupe du Monde, tu vois. Ils ont des équipes vraiment qui sont tellement jouées sur le papier, des beaux talents dans les qualifs. Mais à un moment donné, en fait, il y a un plafond de verre qu'il n'arrive pas vraiment à lui dépasser. Ça, moi, je crois que c'est plus au niveau de l'organisation, parce qu'on avait un Sékou Chell qui était vraiment d'une très bonne dynamique. Même si vraiment, oui, tu sors à la Côte d'Ivoire, on ne peut pas l'en vouloir. Tu perds un match de 1 ou un match où tu, pendant 90 minutes, tu es dominateur, tu montes tout, tu montres que vraiment tu es au-dessus de ton adversaire. Et juste un petit souci... Juste, en fait, une erreur d'inattention, ça arrive, en fait, que ce soit les coups francs, les corners, et tu perds le match. Et déjà, en fait, c'est comme si tout ce travail qu'il a abattu durant 2 ans a été remis en question, et tu ramènes un autre entraîneur et tout. Est-ce que c'est la même continuité? Parce qu'avec Sékou Chell, il avait déjà des cadres, et il avait construit, en fait, un groupe solide. Même quand on le voit, quand on regarde vraiment la prestation au Mali durant la CAN, hormis la Côte d'Ivoire, mais moi, je les vois vraiment aller au Graal. Hein. Oui, parce qu'ils avaient un schéma tout tracé, tout était fait. Et. Quand déjà tu s'est couché, il vient plus, il y a des joueurs qui viennent plus en sélection comme Amaré Traoré, même si vraiment voilà, il est pas, peut-être ils diront qu'il est pas au milieu de sa forme et tout, mais c'est des joueurs cannes, en fait, c'est des joueurs.
Il était blessé. En fait, ouais. Après il y a des joueurs comme El Bilal Touré par exemple
qui vient plus en sélection.
Il vient plus en sélection, enfin ouais. Parce qu'il n'est pas appelé.
Oui.
Il n'est pas appelé aussi, mais on se demande pourquoi. Nous en
il
tout cas.
Il devient quoi en club lui aussi?
Il a changé.
Il a pas mal bougé.
Il est parti à Stuttgart. L'Atalanta le bloquait pour pas qu'il aille jouer. Il me semble qu'il est blessé là.
Non, là matin il est parti à nouveau à Beşiktaş là.
Ah ouais. Il est en Turquie.
Il est un voyageur du foot lui.
Ouais.
Pas bon ça quand ça commence à changer tous les ans.
Après voilà, El Bilal c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais on va dire sur ces 2 dernières années la performance elle est assez moyenne.
Après,
ouais, elle est mitigée. Après, je te rejoins et je te rejoins pas dans le sens où c'est vrai que au niveau du Mali, comme on n'a pas de projet de jeu au niveau de la fédération, c'est vrai que on a beaucoup d'instabilité au niveau des entraîneurs. Ça veut dire qu'on prend un entraîneur, il n'est pas bon à la CAN, il n'est pas bon au Calife, on change et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qui explique en fait la première instabilité. Après, moi, ce que je peux reprocher à Chell aussi, il y a aussi des histoires de choix en fait. Et notamment, je reviens sur ce match à Bamako contre la Centrafrique. Il met sur le banc Yves Bissouma parce qu'il avait des problèmes de comportement. Voilà, on va se dire notamment voilà, à l'hôtel, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous parlerai peut-être en off. Mais du coup, il sanctionne Bissouma lors du premier match contre le Tchad. Il voit que Bissouma boude et il décide de, pour éviter de le perdre, il le met titulaire sur le terrain et il fait un mauvais match contre la Centrafrique à Bamako. Donc à un moment donné, il y a aussi ce problème de consistance de choix chez Chell et chez Tom Saint-Fit, qui est notre entraîneur actuel. Donc je ne pense pas que ça peut marcher. Je pense que, comme tu l'as dit, il faut qu'il y ait une remise en question de notre fédération, mais aussi au niveau du staff technique, il faut qu'on élise des gens qui travaillent sur le long terme, mais avec un vrai projet de jeu et une vraie identité.
Oui, il faut une restructuration parce qu'avec Sékou Chell, il avait ramené en fait des anciens, en fait, comme avec Fousseni Diawara, en fait des gens qui avaient l'amour vraiment de cette sélection, parce que ça aussi, ça compte aussi en fait dans le staff technique. Il faut ramener des anciens pour parler aux jeunes, pour leur montrer là où aussi ils ont péché par le passé, là aussi vraiment où ils ont eu à faire défaut pour pouvoir franchir certains paliers. Parce qu'aujourd'hui, ça fait mal en fait que tu t'imagines une nation comme le Mali depuis combien d'années la Coupe du Monde 2018, le match de qualif, il pète sur une erreur vraiment de Kikuyate en dernière minute face à la Tunisie. Là encore, ça récidive. Donc, ça montre vraiment que, en fait, il y a, en fait, je crois que c'est plus dans l'organisation. Et quand l'organisation elle est mal faite, en fait, il y a des répercussions, en fait, automatiquement sur le joueur et tout ça. Donc, comme tu as dit, si au sein d'un groupe, il y a quelqu'un qui fait la grosse tête, donc du coup, les autres vont se permettre certaines choses. Donc, c'est comme si les cartes ne sont pas redistribuées. Il n'y a pas vraiment un certain professionnalisme, comme tu veux, pour l'époque du voyage. Et tout ça, en fait, ça, comment on dit, en fait, ça fait un ombrage vraiment sur les prestations de l'équipe malienne.
Merci, Cheikh Kenza. On va se faire une petite virgule avant de revenir avec la Guinée. Hein. La Guinée qui est un peu, on peut dire, l'équipe bis du Mali, avec tout le respect que j'ai pour la Guinée, mais dans le sens où on les attend à chaque fois et il y a toujours cette déception, il y a toujours cette déception et encore cette déception. On y revient juste après. La Guinée, hein, tout simplement, qui ne sont pas qualifiés pour la CAN et qui n'ont pas été aussi qualifiés là pour la Coupe du Monde, tout simplement, pour la Coupe du Monde 2026. C'est encore une déception côté guinéen. C'est difficile.
Ouais, bah, y a une expression qui est connue au Mali qui dit que le Mali et la Guinée, c'est un poumon dans le même corps. Donc voilà, on est un peu des frères jumeaux. Et aussi, voilà, moi aussi, j'ai eu des retours de mes amis guinéens au niveau de leur sélection. Après, il y a aussi de gros problèmes d'ego là-bas en Guinée. Je trouve ça vraiment dommage. Mais aussi au niveau voilà, organisationnel, notamment, on leur avait promis qu'ils joueraient au stade du 20 septembre à Conakry. Le stade, il est toujours pas... du 28 septembre, excuse-moi, à Conakry. Et il n'a pas toujours été homologué. Donc, la Guinée, que ce soit au niveau organisationnel, c'est vraiment très, très, très compliqué. Et aussi au niveau du staff technique. Et il faut se dire aussi les choses. À part Sirou Guerassi, je trouve aussi que quand même, notamment leur arrière-garde, c'est vraiment très, très faible. Et du coup, franchement, la Guinée, ouais. Je comprends pourquoi on dit que c'est le pays jumeau du Mali. Hein. Beaucoup de problèmes en perspective aussi.
Maxence ? On t'a perdu, Maxence.
En plus, la Guinée était dans le groupe de l'Algérie, donc tu peux estimer qu'ils soient en dessous de l'Algérie, il n'y a pas de problème, mais finir derrière... Enfin, pour l'instant, ils sont en tout cas derrière l'Ouganda et...
Le Mozambique.
Et Botswana, je crois. Ou...
Le Mozambique.
Ouais, voilà, donc ça, c'est...
Et t'es sûr qu'ils ne rattraperont pas l'Ouganda.
Voilà, donc ils ne seront jamais meilleurs deuxièmes, ils ne seront jamais deuxièmes tout court.
Ouais.
Et c'est sûr qu'après leur CAN, en plus... Leur dernière CAN, c'est une déception qu'ils avaient fait sans Guirassy, enfin, ou du moins il était blessé, donc il n'avait pas été très, très présent sur cette CAN-là. Et là, il était de retour pour porter sa sélection alors qu'il flambe en club. Et ouais, c'est une déception totalement.
Pourtant, la Guinée, c'est tout simplement une victoire contre l'Algérie dans les qualifications de la Coupe du Monde, si je ne m'abuse.
Mais après, ils n'ont pas réussi à être réguliers sur le reste.
C'est une victoire
en Algérie, en plus. En Algérie. Et c'est ça qui fait, je pense, d'autant plus
oui,
mal.
Oui, bien sûr. C'est,
ils
c'est,
ont fait le plus dur, quoi.
Ouais. Ils ont vraiment fait le plus dur. Et
au stade Nelson Mandela, oui, c'est une victoire de la Guinée. Et j'avais suivi ce match-là avec attention. Ce match-là, il aurait même pu se terminer en 1-2 buts d'écart avec quelques buts en plus
et
côté guinéen.
Et justement, c'est là tout le paradoxe. C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est comment tu peux performer face à une équipe comme l'Algérie qui est voilà, top 10, voire top 5 africain sur ces dernières années. Et aussi, te ramasser les pièces dans le tapis sur tous les restes des matchs des qualifications, alors que tu as des adversaires largement plus abordables.
Et après, en Afrique, ce qu'on oublie, c'est que les matchs les plus durs, ce n'est pas des grosses nations, c'est des petites nations quand tu les joues à l'extérieur. C'est que tu as l'impression, pour gagner, c'est un vrai combat.
Oui.
Et c'est là où certaines nations, où ils n'ont pas ce cap de joueurs
supérieur
pour leur faire gagner ce petit 1-0, 2-0. Et tu fais des matchs nuls bêtes, et c'est là que tu perds ta place. Et souvent, sur certaines nations, c'est toujours la même chanson qui se répète. Et tant que certaines nations africaines ne passeront pas ce cap-là de battre les petites nations chez elles, elles iront soit pas à la CAN ou soit pas à la Coupe du Monde.
Oui, en fait, ce qu'il a dit, en fait, oui, ce qu'il a dit vraiment, je le reviens, mais en fait, oui, il y a ça aussi, mais tu imagines que les équipes de la colonne de l'Afrique, comme on dit en fait, les équipes de l'Afrique un peu australe, que ce soit l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya et tout ça, c'est des équipes qui sont pas faciles à jouer, parce que déjà, c'est des pays qui sont en altitude, et tu t'imagines vraiment des joueurs en fait, qui ont l'habitude de jouer en fait, des climats favorables et tout ça, un salaire défavorable. Et c'est maintenant que ces pays-là, en fait, ont commencé à refaire les pelouses. Ils n'avaient pas des bonnes pelouses par le passé. Mais là, maintenant, ces pays aussi se sont mis, en fait, ils ont fait une mise à jour au niveau de la formation et tout ça. Tu vois, à l'époque, c'était pas des pays de football, c'était dans l'athlétisme. Et aujourd'hui, c'est des pays qui font un travail, du larbeur, en fait, dans le silence, dans la discrétion. Et ça porte ses fruits quand on regarde ces pays-là, en fait, qui arrivent à damer le pion comme, disons, une nation comme la Guinée et tout ça, même si c'est pas, en fait, c'est pas une grande nation au niveau mondial, mais au niveau africain, quand même, c'est une référence pour les joueurs qu'ils ont eu à donner à l'Afrique par le passé et tout ça. Donc, ça montre que le football a évolué sur tout le continent. Donc, qu'on le veuille ou pas, en fait, il y a des nations qui ont...
Regarde, tu vois le Soudan du Sud.
Voilà, tu t'imagines le Soudan du Sud, le Cap-Vert, il y a des équipes Madagascar, le Comores, en fait. Même toutes les petites nations. Même toutes les petites nations aujourd'hui, ils ont le Moradi, en fait, face à une grande nation, en fait. Parce qu'on sait que le football, ça les joue à 11 contre 11. C'est d'abord avoir des individualités, mais si vraiment ces individualités ne sont pas, en fait, d'un collectif bien structuré, ben ça sert à rien, ça paye cash en fait.
Oui, et puis il y a très peu de raclés. On parlait de la zone Europe tout à l'heure avec l'Azerbaïdjan, c'est peut-être pas le bon exemple, mais Saint-Marin, les îles Féroé, Chypre.
Après, à l'Afrique, là, j'ai vu, il y a une équipe, je connaissais pas, c'est Sao
Tomé. C'est un pays qui existe à longtemps, mais ils n'étaient pas peut-être dans le football, comme il a dit tout à l'heure. Oui, c'est ça en fait.
C'est le Saint-Marin d'Afrique, je crois.
Il y a eu tellement de.
Les Seychelles aussi qui a pris 7-0 contre
l'Afrique. Ces dernières années, la Coupe du Monde en Afrique 2010, ça a été un boom en fait. En fait, au niveau du football, donc il y a des pays qui ont commencé à faire de la formation. Tu t'imagines 15 ans après, ça porte ses fruits aujourd'hui. Donc, même si ces nations-là ne peuvent pas prétendre à gagner une CAN.
Oui, parce qu'il y a un manque de joueurs et de
talents
évident.
Mais dans les 10 prochaines années, les CAN seront redistribués en Afrique. Dans les 10 prochaines années, ça ne serait pas étonné qu'on verra peut-être des demi-finales où tu auras des pays comme peut-être le Mali ou bien le Madagascar en demi-finale. En fait, le Mali, c'est une grande nation, mais face à des petits poussés, ça peut arriver. Parce que quand on travaille, qu'on ne veut pas, le travail pas de ses fruits.
Oui, après, ouais, y a certains pays aussi où il faudra surveiller leur attention, notamment la Tanzanie ou même la Mauritanie qui investissent fortement.
Dans le football, oui. Dans le football, donc, oui. Et comme on dit, la formation, ça paye toujours. Même si c'est pas en fait la formation, ça ne va pas payer de façon immédiate. Ça ne sera pas dans l'immédiat qu'on le veut pas. Mais au bout d'une génération, deux générations, forcément, tu vas sortir en fait des ténors, tu vas sortir en fait des pépites, comme on dit, tu vas sortir en fait des talentueux, des génies. C'est des gens qui vivent football, qui respirent football, en fait, ils ont que ça à la tête. Donc, à un moment donné, il y aura vraiment ce déclic-là qui va pouvoir les faire passer un cap.
Merci, Cheikh Kenza. La Tunisie, qui se sont qualifiés pour la Coupe du Monde, le Maroc aussi, qui se sont qualifiés pour la Coupe du Monde, assez aisément, hein, ces équipes-là, et l'Algérie aussi, qui a rejoint le trio maghrébin. C'est une première.
Je tenais juste à féliciter déjà la Côte d'Ivoire et la Tunisie pour avoir fait quasiment un parcours sans avoir encaissé de but.
Oui, c'était important de le rappeler. Merci, Jason. Ouais. Qu'est-ce que alors vous retenez de tout simplement de ces équipes-là qui ont su se qualifier pour la première fois tous ensemble?
Moi, je vais peut-être casser l'ambiance un petit peu, mais vu que jusqu'aux années 80, il y avait deux équipes africaines qui étaient qualifiées pour la Coupe du Monde sur les 24. Il y avait 14 Européens, 4 en Amérique du Sud et 2-2-2 Asie, Afrique, Amérique du Nord. Écoute, ils ont tellement
été... à 3.
Voilà, exactement. Ils ont été discriminés pendant tellement longtemps. En fait, c'est dommage parce que ça fait plaisir forcément de voir plus de pays africains à la Coupe du Monde. Mais en fait, on ne remet pas en cause le format qui a été décidé par la FIFA. Et moi, ça me dérange un peu. Là, on va avoir quand même une Coupe du Monde avec beaucoup, beaucoup de matchs, avec des qualifications qui perdent finalement un petit peu en intérêt. D'où la responsabilité encore plus grosse des équipes non qualifiées comme l'Italie, la Belgique peut-être, voire le Nigeria en Afrique. Mais donc, c'est beau sur le papier. Faut aussi se rendre compte que c'est un exploit voilà, qui a une durée, qui a une portée sur 30 ans, mais pas plus.
Merci.
Et encore, parce qu'il y a même 10 ans, il n'y avait pas des équipes africaines qui allaient.
C'est la nouvelle formule qui a permis
Sur 5 ou 6, c'était dur d'avoir 3 qui étaient là.
Oui, comme on a dit, les équipes du Maghreb, bon, moi, vraiment, ça a félicité. Parce qu'en fait, c'est, comme on dit, c'est au plus offrant que revient vraiment la demande et tout ça. Donc, ils ont, en fait, c'est des équipes qui ont travaillé, voilà, qui ont mis vraiment des moyens. Et le football là-bas, c'est structuré dans les pays maghrébins. j'ai eu la chance en fait de vivre un peu au Maroc. J'ai vu comment en fait il y a des cities un peu partout, des terrains et tout ça, des écoles de football, comme on dit avec l'école du roi Mohamed V. La Tunisie en fait, ça c'est pas à parler, la Tunisie c'est un pays de football. J'imagine que voilà, avec deux grands clubs, l'Espérance de Tunis en fait, il y a le Sexe Racien, il y a l'État Sportif, donc c'est en fait c'est des pays en fait qui vivent le football, comme on dit. C'est des pays africains où c'est des pays africains où le football est tellement respecté, le football est tellement honoré, que même quand il y a des débits, tu vois que la ville bouge, on va ensemble, même dans des petites villes, quand il y a un match, en fait, tu vois. Donc il y a tellement d'engouement autour du football que c'est normal qu'aujourd'hui ça puisse porter ses fruits. C'est normal qu'aujourd'hui les pays du Maghreb, en fait, nous damnent le pion au subsaharien. C'est normal. C'est eux qui mettent le plus de moyens, c'est eux vraiment qui mettent le plus d'engouement et d'abnégation. Donc ça. Ça oui, finit pas
aussi,
payer.
Aussi, je trouve que c'est les équipes les mieux structurées.
Voilà.
Par exemple, moi, je m'explique, je m'en souviens lors de l'éliminatoire en Coupe du Monde 2022, quand ils affrontaient en barrage aller-retour le Mali. Ils étaient venus des mois à l'avance la Tunisie pour venir à Bamako, repérer les lieux, voilà, ouais. S'acclimater, comprendre comment ça fonctionne, préparer au mieux leur équipe quand elle va venir au Mali. Et voilà, donc moi je pense que ça, c'est pas un hasard. À un moment donné, ça se traduit, ça se paye aussi. Donc je pense que voilà, au niveau des équipes maghrébines, et quand je parle aussi du Maroc, quand voilà, j'ai un ami qui est un journaliste malien qui a été invité au Maroc, c'est dans leur politique d'influence. Quand tu vois voilà, le musée sur le football, l'Académie Mohamed V, leur politique de jeunes, là, il faut savoir qu'à la Coupe du Monde U20, par exemple, le Maroc, en demi-finale, va affronter la France aussi. Oui. Donc voilà, il y a des choses qui sont faites, en fait, dans ces pays-là, qui vont dans le bon sens. Et donc, pour moi, c'est logique, en fait, qu'ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2026.
Merci Omar. Voilà ce qu'il en était de la qualification de la CAN, en tout cas de la qualification Coupe d'Afrique. Hein. On va très rapidement... s'il y en a qui ont quelque chose à dire sur Zinedine Zidane qui va reprendre la Coupe du Monde, qui va reprendre en tout cas, a priori en tout cas, il y a de grandes chances qu'il reprenne la tête des Bleus. Est-ce que vous pensez que ça redistribue les cartes entre les joueurs? Très rapidement s'il vous plaît messieurs.
Moi non, pour le dire vite non, je pense pas que ça redistribue les cartes, mais je trouve que c'est un peu tôt pour l'annoncer. On sait qu'il a pas que des amis dans la fédération Zidane, je trouve qu'il se met un peu de pression à lui et qui peut-être qu'il met aussi une pression inutile à Deschamps et aux joueurs.
Merci Lucas. Maxence ?
Non, je pense que ça ne rebat pas les cartes. Et puis, on a vu avec le Zidane du Real, à moins qu'il ait beaucoup changé depuis, mais que son style de jeu il était plus ou moins similaire à celui de Deschamps. Donc, je pense qu'il repartira sur les mêmes bases. Surtout si la Coupe du Monde se passe bien, il ressortira d'une équipe qui a fait demi-finale d'Euro et on ne sait pas quoi à la Coupe du Monde. Mais s'il y a au moins un quart ou une demi-finale, il s'appuiera sur ses forces en présence.
Merci. Omar ?
Oui, après, je pense pas qu'il va y avoir de grands bouleversements. Je pense que c'est quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur la continuité. On l'a vu au Real, quand même, il a repris voilà, un petit peu plus ou moins l'équipe d'Ancelotti. Il a, on va dire, fait quelques ajustements techniques. Mais moi, je vois pas, en tout cas, de cette expérience-là, de ce que moi je vois pas Zidane changer ou bouleverser complètement les plans. Je pense qu'il va s'appuyer toujours sur la même base que Deschamps a mis en place.
Merci Omar Chekinza.
Ouais, moi par contre je suis pas d'avis avec eux quand ils disent que ouais, Zidane, je crois que c'est un adepte en fait du football, du beau
très
jeu en fait, du beau jeu. Donc quand il va arriver, forcément il va apporter sa touche personnelle. Par contre il pourra redistribuer les cartes, oui, parce que c'est qu'il voit en fait, si c'est pas en fait comme on dit, c'est pas en accord avec ce qu'il veut proposer, ben il va donner en fait, il y aura une palette large de jeux, de joueurs à visiter et tout ça. Real a fait l'exemple avec Casemiro, il a mis titulaire, il a dégagé en fait Ramos. Donc je crois que quand il va arriver avec lui, Zidane, avec lui en fait, on aura vraiment du beau football enfin, et on pourra vraiment, nous les amateurs du beau football, on pourra se régaler.
Merci Chekenza.
Moi je ne m'attends pas, comme la majorité des collègues, à un grand bouleversement. Après j'attends juste qu'il fasse des très bons débuts quand il prendra la sélection, parce que ça fait un moment qu'il n'a pas exercé. Donc après juste qu'il ne déçoit pas la majorité des Français, parce que c'est bon, même si ça écornera jamais son image, mais je pense que la majorité des Français seraient déçus si c'est un échec, en tout cas.
Puis t'auras aussi la phase lune de miel avec les joueurs qui vont vouloir jouer pour Zidane pendant 6 mois, 1 an. C'est leur idole à tous. Donc, donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis sur le début. Après, il faudra voir la continuité et ce qu'il arrive à mettre en place. Ça. Moi, sur le beau jeu, je suis pas sûr.
Quand même, il a réussi à sublimer le travail d'Ancelotti. Moi, je m'attends au moins qu'il fasse ça. pas de révolution, je suis d'accord, mais au moins sublimer ce qui a été bien fait avec son leadership, il en a les capacités.
Merci Lucas. On va se faire un petit quiz très rapide, hein, c'est le jeu préféré de Maxence. Hein. On va se faire un petit quiz et, pour terminer l'émission. Quel est le premier adversaire de l'équipe de France dans un match officiel ?
La Belgique.
L'Uruguay.
Qui a dit la Belgique ? Omar, c'est la Belgique. Ouais. C'est la Belgique. Le score ? T'as le score ?
Non, j'ai pas le score.
Non, quelqu'un a le score ? Non, ok. Bah, c'était la Belgique. Et premier match le 1er mai 1904. Et ça s'est terminé par 3 buts partout. Deuxième question. Qui a remporté le premier ballon d'or ?
Coppa.
Di Stéfano ?
Non. T'as pas été très loin.
Puskas ?
Non.
Yachine, Lev Yachine.
Non, c'est plus tard. Ça doit être les fins des années 50, c'est pas. Moi, je pensais que
c'était en 56.
Ouais, c'est ça.
Juste Fontaine ?
Non. Je vous le donne. Stanley Matthews.
Ah ouais.
Je
pensais que c'était un joueur du Real ou de Reims.
Voilà. Qu'il l'a remporté à 41 ans. On va repartir bah, encore.
Ronaldo, c'est pas mort.
On va repartir sur les anciens aussi encore. Qui a été le premier lauréat Golden Boy ?
C'est quelle année ça que ça a été lancé ?
C'est un peu plus récent quand même, c'était en 2003.
Ah.
Un joueur de l'Ajax.
Schneider ?
Non.
Van der Vaart ?
Van der Vaart. Ah, ouais. Van der Vaart pour Jason. Question suivante. Le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde a été marqué par...
C'est un Français, c'est pas Lucien Laurent.
Exactement, c'est un Français et c'est Lucien Laurent. C'est un Français et c'est Lucien Laurent le 13 juillet 1930. Omar, 2 buts à 0, 2-1. Omar et
Omar, là, ouais,
Maxence,
fort,
aujourd'hui, t'es pas trop au taquet.
Y a rien à dire, je suis surclassé, y a rien à dire.
Et le meilleur buteur, toute qualification à la Coupe du Monde confondue.
C'est Klose, non ?
Non.
Cristiano.
Cristiano, je te l'accorde, à égalité avec Carlos Ruiz, à 39 buts chacun.
Waouh.
Quelle est la pire...
Et la France vient d'égaliser, un partout.
Qui a marqué ?
Nkunku,
voilà. Avant-dernière question, quelle est la pire défense des qualifications des qualifications Coupe du Monde européen ?
Saint-Marin.
Non, Coupe du Monde.
Il fait rouer.
Ah, qualification.
Ouais. Oui, qualification.
Coupe du Monde, il fait rouler.
Gibraltar.
Andorre ?
Ah, Gibraltar, non.
Ça doit être un petit pays. Luxembourg.
Ça va être l'Italie,
non,
tu vois.
Non, pas Liechtenstein.
Non. Ah, c'est le moment, Jason, si tu veux passer devant, c'est le moment où...
Azerbaïdjan.
C'est une équipe qui...
Estonie.
Qui joue en ce moment les qualifications aussi.
Aujourd'hui, là ? Ils jouent maintenant ?
Ils ont joué hier, il me semble.
Ah, petit indice.
Ah,
c'est pas Estonie.
La Norvège, ils ont joué qui ?
Je sais même plus.
Ils en ont mis 5 là. Et la Norvège en a mis 10 aussi avant à une équipe.
Je sais même plus c'était qui, quelle équipe.
Moi aussi, je vois pas. Hein. Je sais, je suis complètement.
C'était la Moldavie. Tu partais sur le bon chemin. Voilà. Mais on va pas te l'accorder, Maxence. Omar qui a gagné un demi. C'est ce qui te permet de passer juste devant Jason. Premier, Omar. Maxence, deuxième et troisième, Jason. Lucas et Shekenza pour une prochaine fois, j'espère. Merci à Jason, à la technique. Merci à vous, nos chers chroniqueurs. Merci à vous, nos chers auditeurs et auditrices. Et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Suivez le match de l'équipe de France. Un but partout, comme on vous l'a annoncé il y a quelques instants. On reviendra la semaine prochaine avec du football, toujours du football, encore du football. Prenez soin de vous, bonne soirée.
Salut.